Lundi 9, mardi 10. Mon ménage, intention de l'empereur dans ses prodigalités, etc. L'empereur a passé une mauvaise nuit. Il m'a fait appeler de bonne heure et m'a dit être assommé, tué. Il n'avait pu se reposer et avait eu la fièvre. Il a continué d'être souffrant ces deux jours. Il a passé presque tout le temps sur son canapé et les soirées près du feu. Il n'a pu manger et s'est contenté de boire de la limonade cuite. Je l'ai à peine quitté tout ce temps, l'ayant soigné plusieurs fois de mes propres mains. Il a sommeillé à divers intervalles, et le reste du temps il causait ou me questionnait sur une foule de différents sujets. Une fois il s'est arrêté sur les dépenses de nos sociétés de Paris. Il a passé de là à mon ménage et a voulu en connaître les plus minutieux détails. Quand il m'a entendu dire que je n'avais que 20 000 francs annuels, dont 15 à moi et 5 de traitement de son conseil d'État, il s'est écrié « Mais vous étiez donc fou! Comment avez-vous osé approcher des Tuileries avec un aussi mince revenu? Les dépenses y étaient énormes, vous me faites frémir. » Sire, je n'y étais pourtant pas différemment des autres et je n'ai jamais rien demandé à votre majesté. Je ne dis pas cela, mais vous deviez être ruiné en moins de 4 ou 5 ans. Non, sire, j'avais passé la plus grande partie de ma vie dans l'émigration, j'avais constamment vécu de privations, je demeurais encore, à fort peu de choses près, de même. Il est bien vrai qu'en dépit de toute mon économie, je mangeais encore 7 ou 8 000 francs de mon capital chaque année, mais, sire, voici quel avait été mon calcul. Il était reconnu qu'auprès de vous, avec du zèle, de la bonne volonté, tôt ou tard, on attirait votre attention, et, vos regards arrêtés, la fortune était faite. Or, j'avais encore 4 à 6 ans à poursuivre cette chance, au bout desquels, si les bienfaits n'arrivaient pas, je brisais avec les illusions de ce monde et me retirais en province avec 10 ou 12 000 livres de rente, il est vrai, mais bien plus riche cependant que je ne l'avais été à Paris. « Eh bien, disait l'empereur, ce calcul, au fait, n'était pas mauvais, et vous avez atteint, je crois, l'instant de la rentrée de vos fonds. N'avais-je pas commencé à faire quelque chose pour vous ?»« Oui, sire. » »« Et si cela n'a pas été plus prompt ou plus brillant, la faute en a été uniquement à vous. Vous n'avez pas su en profiter, je crois vous l'avoir déjà dit. » Tout cela l'a conduit à revenir sur les sommes énormes qu'il avait répandues autour de lui. Et s'animant par degrés, il a dit « Il serait difficile de les évaluer. On a dû plus d'une fois m'accuser de prodigalité et j'ai la douleur de voir que cela n'a guère profité dans aucun. Certainement, il faut qu'il y ait eu fatalité de ma part ou vice essentiel chez les personnes choisies. Quelle contrariété n'a pas dû être la mienne, car on ne saurait croire que tout cela fut pour ma vanité personnelle. » Je n'étais pas d'humeur à donner le spectacle d'un roi d'Asie. Je n'agissais ni par faiblesse ni par caprice. Tout en moi était calcul. Quelle tendresse que j'eusse pour les individus, je n'avais pas prétendu les gorger pour leurs beaux yeux. J'avais voulu fonder en eux de grandes familles, de vrais points de ralliement, en un mot, des drapeaux dans les grandes crises nationales. Les grands officiers qui m'entouraient, tous mes ministres, ont souvent reçu de moi, indépendamment de leurs énormes appointements, des gratifications fréquentes, parfois de services complets d'argenterie, etc. Or, quelles étaient mes vues dans ces profusions? J'exigeais qu'ils tinssent maison, qu'ils donnassent de grands dîners, qu'ils eussent des bals brillants. Et pourquoi tout cela? Pour fondre les partis, cimenter les unions nouvelles, briser les nouvelles aspérités, créer une société, des mœurs, leur donner une couleur. Si j'ai conçu souvent de grandes et bonnes pensées, elles allaient toujours avorter où je les déposais, car aucun de ces premiers personnages n'a jamais tenu de véritable maison. S'ils donnaient à dîner, ils s'invitaient entre eux. Et quand je me rendais à leur bal fastueux, qui trouvais-je? Toute ma cour des Tuileries. Pas une figure nouvelle, pas un de ces blessés, de ces revêches boudant à l'écart, et qu'un peu de miel eût ramené au bercail. Ils ne savaient pas me comprendre, ou ne le voulaient pas. J'avais beau me fâcher, vouloir, ordonner, le tout n'en continuait pas moins. C'est que je ne pouvais être partout et toujours, ils le savaient bien, et pourtant j'ai passé pour avoir une main de fer. Que doit-ce donc être avec les débonnaires, etc., etc. Mercredi 11, petitesse de son lit, le tic revenu, garde de l'aigle, le coucou. L'empereur a continué de souffrir. Je l'ai trouvé fort abattu et faisant changer son lit de place. Ce lit, si longtemps le fidèle compagnon de ses victoires, n'était plus aujourd'hui que son grabat de douleur. L'empereur, dans sa souffrance, se plaignait qu'il fût trop petit pour sa personne. Il trouvait à peine à s'y remuer, mais l'espace de sa chambre n'en comportait pas de plus grand. Il la fait porter dans son cabinet à côté d'un petit lit de repos ou canapé, de manière à ce que, assujettis ensemble, ils lui composassent un lit plus spacieux. Voilà pourtant à quoi il en est réduit. L'empereur, revenu sur son canapé, s'est mis à causer et s'est un peu remis par la conversation. Parlant de son avènement au consulat et de l'effroyable désordre qu'il avait rencontré dans toutes les branches quelconques du service public, il disait qu'il avait été tenu à de nombreuses épurations immédiates qui avaient beaucoup fait crier, mais qui pourtant n'avaient pas peu contribué à resserrer tous les liens sociaux. Cette épuration s'était étendue jusqu'à l'armée, parmi les officiers, les généraux même, dont plusieurs l'étaient devenus, Dieu sait par qui, disait-il, et Dieu sait comment. À ce sujet, je me suis permis de lui citer une anecdote de ce temps qui avait fort amusé le cercle où je passais ma vie. Un de nous, et malveillant ainsi que je l'étais alors moi-même, s'était trouvé dans une de ces petites voitures de Versailles avec un soldat de la garde et l'avait malicieusement excité à parler. Ce soldat était mécontent et disait que tout se gâtait, qu'on exigeait à présent qu'on sût lire et écrire pour pouvoir avancer. Et voilà déjà le tic revenu, disait-il. Il appelait cela le tic. Le mot n'eut plus et resta dans la société. « Eh bien, disait l'empereur, qu'aura dit votre soldat lorsque j'ai créé les gardes de l'aigle? Ils m'auront sans doute réhabilité dans son esprit. J'avais établi, a-t-il ajouté, deux sous-officiers gardes spéciaux de l'aigle dans les régiments, placés à droite et à gauche du drapeau. Et pour éviter que l'ardeur dans la mêlée ne les détournât de leur unique objet, le sabre et l'épée leur étaient interdits. Ils n'avaient d'autre arme que plusieurs paires de pistolets, d'autre emploi que de veiller froidement à brûler la cervelle de celui qui avancerait la main pour saisir l'aigle. Or, pour obtenir ce poste, ils étaient obligés de faire la preuve qu'ils ne savaient ni lire ni écrire. Et vous devinez pourquoi ? Non, sire. Nigaud. Tout soldat qui sait lire et écrire, il y a de l'instruction, avance toujours. Mais celui qui n'a pas ces avantages ne parvient bien certainement qu'à force d'actes de courage et par des circonstances extraordinaires, etc. Comme j'étais en train de raconter, je lui ai cité sur le sujet une autre anecdote qui avait fait encore l'amusement de nos salons. On disait que, dans je ne sais quelles circonstances, un régiment ayant perdu son aigle, lui, Napoléon, le haranguait à ce sujet avec beaucoup d'indignation sur ce qu'il avait eu le déshonneur de laisser enlever son aigle par l'ennemi. Un soldat gascon s'était écrié « Mais ils se sont attrapés, ils n'ont eu que le bâton, car voici le coucou, je l'avais mis dans ma poche », montrant effectivement l'aigle. L'empereur n'a pu s'empêcher d'en rire et a dit « Eh bien, je ne garantirai vraiment pas qu'il ne soit en effet arrivé quelque chose de la sorte ou approchant. Mes soldats étaient fort à leur aise, très libres avec moi. J'en ai vu souvent me tutoyer. » Je racontais qu'on nous avait dit qu'à Iéna, je crois, ou ailleurs, la veille d'une bataille, parcourant certains postes fort peu accompagnés, un soldat lui avait interdit le passage et s'était fâché de le voir insister, jurant que, quand ce serait le petit caporal lui-même, il ne passerait pas. Et quand il a vu qu'effectivement c'était le petit caporal, il n'en avait été nullement déconcerté. C'est qu'il avait la conviction d'avoir fait son devoir, a dit l'empereur. Et puis, le fait est que je passais pour un homme terrible dans vos salons, parmi les officiers, peut-être même les généraux, mais nullement parmi les soldats. Ils avaient l'instinct de la vérité et de la sympathie. Ils me savaient leur protecteur, au besoin leur vengeur, etc. Jeudi 12, l'empereur continue d'être souffrant, etc. Gaieté, horrible nourriture, vin exécrable, etc. Aujourd'hui, l'empereur, bien qu'il ne fût pas mieux, a résolu de brusquer, disait-il, sa souffrance. Il s'est habillé et a gagné le salon où il a dicté 2 ou 3 heures à l'un de ses messieurs. C'était le 3e jour qu'il n'avait pas mangé. Il n'éprouvait pas encore la crise qu'il cherche et obtient d'ordinaire par le régime singulier qu'il s'est créé. Il continuait toujours de prendre de la limonade cuite. Cet état l'a conduit à demander combien de temps l'on pouvait vivre sans manger, et dans quelle proportion le boire pouvait suppléer à la nourriture. Il a fait venir l'Encyclopédie britannique, où il s'est trouvé des choses fort curieuses. Une femme, par exemple, ayant vécu 50 jours sans autre secours que d'avoir bu 2 fois. Un autre qui s'était soutenu pendant 20 jours allait de dos seulement, etc. Quelqu'un disait à ce sujet que Charles XII, par seule expérience sur lui-même et par pure contradiction pour les raisonnements soutenus autour de lui, était demeuré 5 à 6 jours sans manger, et au bout de ce temps avait avalé un dindon et un gigot, mais il avait failli en crever. L'empereur en riait et nous assura qu'il n'avait pas la prétention d'aller jusque-là, quelque tentant d'ailleurs que fût le modèle. Il a fait une partie de piquet avec madame de Montholon. Le grand maréchal est arrivé. La partie finie, l'empereur lui a demandé comment il le trouvait. Mais un peu jaune, a répondu Bertrand. Et c'était très vrai. L'empereur, dans un mouvement de gaieté, s'est mis à le poursuivre dans le salon pour lui saisir l'oreille, disant: Comment, un peu jaune? Vous m'insultez, monsieur le grand maréchal. Vous prétendez dire par là que je suis bilieux, morose, atrabilaire, violent, injuste, tyran? Allons, livrez-moi cette oreille, que je me venge, etc. Le dîner est arrivé, et l'empereur a hésité s'il dînerait avec nous ou s'il dînerait dans son intérieur, et il s'est décidé pour ce dernier, de peur, disait-il, d'être tenté d'imiter Charles XII s'il venait à la grande table. Mais certes, cela lui eût été bien difficile, car étant venu nous surprendre au milieu du dîner, nous lui avons fait pitié, disait-il, et en effet, nous avions littéralement à peine de quoi manger. Cette circonstance l'a conduit à prendre un parti extrême. Il a ordonné, dès cet instant, de vendre chaque mois une portion de son argenterie pour subvenir à nos besoins de table. Ce qu'il y avait de pis à notre mauvais dîner, et qui est devenu le sujet d'une conversation sérieuse, c'était le vin exécrable depuis quelques jours et qui nous a tous incommodés. Nous avions été obligés d'en faire demander au camp, espérant qu'on nous changera celui que nous ne saurions boire. Dans le cours de cette conversation, l'empereur a dit que, situé comme il l'avait été, il avait reçu une foule d'indices et d'avertissements de la part des chimistes et des médecins, que tous s'étaient accordés à lui signaler le vin et le café comme les objets dont il devait le plus se garantir. Tous s'accordaient aussi à lui dire de les repousser à la moindre odeur d'ail, et pour le vin surtout, de le rejeter à l'instant si seulement il se sentait le moindrement étonné en le goûtant. Comme il avait toujours eu, disait-il, son même vin de Chambertin, il avait été rarement dans le cas d'avoir rien repoussé. Mais aujourd'hui, c'était tout autre chose. S'il avait rejeté son vin à chaque étonnement, il y a bien longtemps qu'il n'en boirait plus, etc., etc. Vendredi 13, poème des Charlemagne du prince Lucien, critique Homère. Le temps a été détestable, il dure ainsi depuis 3 semaines ou 1 mois. Avant 1 heure, l'empereur m'a fait demander, il était dans son salon, l'amphitryon venait d'arriver chez moi, je le lui ai amené, il l'a entretenu d'objets personnels et particuliers. L'empereur était fort changé, il a désiré se mettre au travail. J'ai fait venir mon fils et l'empereur a retravaillé le chapitre du pape et celui du Tagliamento. Il n'a cessé qu'à 5 heures. Il était fort abattu, avait l'air fort souffrant et s'est retiré, disant qu'il allait essayer de manger quelque chose. 2 bâtiments avaient été signalés. On croyait que l'un était l'Eurydice, venant d'Europe par le cap et attendu à chaque instant. Il s'est trouvé que ce n'était qu'un bâtiment de la compagnie et un vaisseau qui passait. L'empereur est venu nous retrouver au milieu de notre dîner. Il avait mangé comme 4, disait-il, et cela l'avait remis. On cherchait un sujet de lecture. Il a demandé Charlemagne de son frère Lucien. Il a analysé le premier champ, puis parcouru plusieurs autres, puis cherché le sujet, le plan, etc. Que de travail, que d'esprit, que de temps perdu, a-t-il observé. Quel décousu de jugement et de goût. Voilà 20 000 vers dont quelques-uns peuvent être bons, par ce que j'en sais, mais ils sont sans couleur, sans but, sans résultat. C'est dans l'auteur une vocation forcée, sans doute, mais encore est-elle mal suivie. Comment Lucien, avec tout son esprit, ne s'est-il pas dit que Voltaire, maître de sa langue et de sa poésie, à Paris, au milieu du sanctuaire, a échoué dans une pareille entreprise? Comment lui, Lucien, a-t-il pu croire qu'il était possible de faire un poème français en pays étranger, hors de la capitale de la France? Comment a-t-il pu prétendre établir un rythme nouveau? Il a fait là une histoire en vers et non un poème épique. Le poème épique ne comporte pas l'histoire d'un homme, mais seulement celle d'une passion ou d'un événement. Et quel sujet a-t-il encore été prendre? Quel nom barbare il a introduit? A-t-il cru relever la religion qu'il pensait abattue? Son ouvrage serait-il un poème de réaction? Il sent du reste tout à fait le sol sur lequel il fut composé. Ce ne sont que des prières, des prêtres, la domination temporelle des papes, etc., etc. A-t-il pu consacrer 20 000 vers à des absurdités qui ne sont plus du siècle, à des préjugés qu'il ne peut pas avoir, à des opinions qui ne sauraient être les siennes? C'est prostituer son talent. Quel travers! Et que ne pouvait-il pas faire de mieux, car il a certainement de l'esprit, de la facilité, du faire, du travail. Or, il était à Rome au milieu des plus riches matériaux, à même de satisfaire à toutes ses recherches. Il connaissait la langue italienne, nous n'avons pas de bonne histoire d'Italie, il pouvait la composer. Son talent, sa position, sa connaissance des affaires, son rang pouvaient la rendre excellente et classique. Il eut fait un vrai présent au monde littéraire et se fut rendu immortel. Au lieu de cela, qu'est-ce que son poème? Que fera-t-il à sa réputation? Il s'ensevelira dans la poussière des bibliothèques et son auteur obtiendra tout au plus quelques minces articles, peut-être ridicules, dans les dictionnaires biographiques ou littéraires. Que si Lucien ne pouvait échapper à sa destinée de faire des vers, il était digne, convenable et adroit à lui d'en soigner un manuscrit magnifique, de l'enrichir de superbes dessins, d'une riche reliure, d'en régaler parfois les yeux des dames, d'en laisser percer de temps à autre quelques tirades, et de le laisser en héritage avec la défense sévère de le publier jamais. On eût alors compris ses jouissances. Et puis, le mettant de côté, il a dit « Passons à l'Iliade. Mon fils a été la chercher, et l'empereur nous en a lu quelques chants, s'arrêtant souvent pour admirer, disait-il, à son aise. Ses observations étaient précieuses, abondantes, singulières. Il s'y est attaché tellement qu'il avait atteint minuit et demi quand il a demandé l'heure pour se retirer. Et samedi 14, manque de nourriture, le vin est ridiculement fixé, etc. Retour de l'île d'Elbe, bizarrerie du hasard. Le temps continue toujours à être détestable et à nous confiner dans nos misérables cahutes. Nous sommes tous malades. L'empereur a dicté pendant une partie du jour. Il était beaucoup mieux. Au dîner, nous avions littéralement à peine de quoi manger. Le gouverneur opérait successivement ses réductions. L'empereur a ordonné qu'on cherchât à acheter quelque chose de surplus et qu'on le payât avec ce qui proviendra de la vente de l'argenterie. Le gouverneur a signifié que le vin demeurait fixé à une bouteille par tête. L'empereur comprit. Cela se croira-t-il? Une bouteille pour une mère et ses enfants. C'est l'expression employée dans la note, etc., etc. L'empereur, retiré chez lui, m'a fait demander. Je ne me sens pas l'envie de dormir, m'a-t-il dit en me voyant. Je vous ai envoyé chercher pour passer la veillée. Causons quelques quarts d'heure. Et le cours de la conversation a ramené l'île d'Elbe, ses travaux, ses sensations, ses idées durant le séjour qu'il y avait fait. Enfin, son retour sur le sol français et le succès magique qui l'accompagna et dont il n'avait, disait-il, pas douté un seul instant, etc. Et qu'on explique cela comme on voudra ou comme on pourra, a-t-il repris dans un certain moment. Mais je vous jure que je ne me sentais aucune haine directe et personnelle contre ceux que je venais renverser. C'était uniquement pour moi de la querelle politique. Je m'en étonnais moi-même, tant je me trouvais le cœur libre, aisé, même bienveillant, je pourrais dire. Vous avez vu comme j'ai relâché le duc d'Angoulême. J'en eusse fait autant du roi, ou lui eusse accordé, à son gré, asile et sûreté. Le triomphe de la cause ne tenait nullement à sa personne, et je respectais son âge, ses malheurs. Peut-être aussi lui tenais-je compte de certains ménagements que lui, nominativement, avait toujours observés à mon égard. Il est bien vrai qu'en ce moment il m'avait déclaré hors la loi et avait mis ma tête à prix, je crois. Mais tout cela n'était à mes yeux que style de manifeste. Tous à Vienne en ont fait autant, sans m'ulcérer davantage, voire même le cher beau-père. Et de lui, c'est pourtant bien fort, l'époux de sa fille chérie, etc., etc. Mais puisque voilà le retour de l'île d'Elbe mentionnée de nouveau, c'est peut-être ici le lieu de tenir la promesse que j'ai faite plus haut, d'en donner plus tard la relation. Que si on me demande pourquoi cette transposition, je réponds que le sujet par lui-même était délicat, que je n'avais point encore donné de preuve du véritable esprit de mon recueil, qu'on y eût peut-être pu suspecter alors certaines malveillances. Tandis qu'aujourd'hui, que je dois avoir convaincu que mes récits sont purement philosophiques, moraux, historiques, on sentira que, quelles que soient les erreurs qu'ils contiennent, c'est à l'historien, au critique seul, à me redresser ou à me combattre. Du reste, cette relation se trouve dans tous les journaux, dans tous les ouvrages, dans tous les pays. Celle-ci ne saurait donc avoir rien de bien neuf, seulement elle a été recueillie de la bouche de Napoléon. Je réunis ici ce qu'il en a dit en différents moments. Napoléon vivait à l'île d'Elbe, sur la foi des traités. Il apprend qu'il est question, au congrès de Vienne, de le déporter hors de l'Europe. On n'observait avec lui aucun des articles de Fontainebleau. Les papiers publics l'instruisaient de la disposition des esprits en France. Son parti fut pris. Il en garde le secret jusqu'au dernier moment. Tout se prépare sous un prétexte ou sous un autre. Ce n'est qu'en se trouvant à bord que les soldats conçurent les premiers soupçons, et 1 000 ou 1 200 hommes et quelques esquifs mettent à la voile pour aller tenter la repossession d'un empire de 30 millions d'hommes. Il y avait près de 500 ou 600 hommes sur le brick où Napoléon s'embarqua. C'était, disait-il, l'équipage d'un 74. On fut rencontré par un brick de guerre français avec lequel on parla. On a prétendu que le capitaine du brick français avait reconnu les figures et avait crié 3 fois en se séparant « Bon voyage !» Quoi qu'il en soit, l'officier qui conduisait l'empereur lui proposa d'aborder ce brick et de l'enlever. L'empereur repoussa cette idée comme absurde. Elle ne pouvait être raisonnable que si on y eût été forcé par la nécessité. Autrement, à quoi bon, disait-il, compliquer mon dessein de ce nouvel incident? De quelle utilité eût pu m'être ce succès? À quoi ne m'exposait pas le plus léger contretemps? Et que ne peuvent la bizarrerie et les rapprochements du hasard? J'ai eu la preuve depuis que ce brick sur lequel était l'empereur et celui avec lequel on parlementa étaient jumeaux et avaient été construits précisément avec des bois donnés à l'État par Napoléon, qui les tenait d'un héritage en Toscane, c'est sans doute du vieil abbé son parent dont il a été question plus haut. Lors de l'échec qu'on éprouva en débarquant par la capture d'une vingtaine d'hommes qu'on avait envoyés sommer Antibes, diverses opinions s'élevèrent à cet égard, et même avec assez de chaleur. Les uns voulaient qu'on se portât aussitôt sur Antibes pour l'enlever de force et prévenir par là le mauvais effet que pouvait produire la résistance de cette place et l'emprisonnement des 20 hommes. L'empereur répondait que la prise d'Antibes ne faisait rien à la conquête de la France, que le peu de temps qu'il y perdrait suffirait pour réveiller partout et créer des obstacles sur la seule, la véritable route. Que les moments étaient précieux, qu'il fallait voler, qu'on remédierait aux mauvais effets de l'événement d'Antibes en marchant plus vite que la nouvelle. Un officier de la garde ayant fait sentir indirectement qu'il n'était pas bien d'abandonner ainsi ses 20 hommes, l'empereur se contenta d'observer qu'il jugeait bien mal de l'étendue de l'entreprise, que si la moitié d'eux se trouvait dans le même cas, il les laisserait de même, que s'ils y étaient tous, ils continueraient de marcher seuls. Il avait débarqué au golfe Juan quelques heures avant la nuit et y avait établi son bivouac. On lui amena bientôt après un postillon en belle livrée. Il se trouva qu'il avait fait partie de sa maison. Il avait appartenu à l'impératrice Joséphine et servait en ce moment le prince de Monaco, qui lui-même avait été écuyer de la princesse Joséphine. Ce postillon, questionné par l'empereur, lui disait, dans son grand étonnement de le trouver là, qu'il arrivait de Paris et qu'il pouvait lui garantir qu'on allait le revoir partout avec plaisir, que sur sa route jusqu'à Avignon, il n'avait entendu que des regrets de l'avoir perdu, que son nom était publiquement dans toutes les bouches. Il ajoutait que sa belle livrée avait été souvent pour lui un objet de défaveur et d'insulte. Il assura l'empereur que la Provence, une fois traversée, il trouverait tout le monde sur son passage prêt à se réunir à lui. C'était là le témoignage d'un homme du peuple. Il fut très agréable à l'empereur qui avait calculé précisément de la sorte. Le prince de Monaco, amené lui-même, fut moins explicite. L'empereur d'ailleurs ne le questionna point sur la politique. Il avait des témoins au bivouac, il ne voulait pas s'exposer à entendre aucun détail qui pût laisser de mauvaises impressions sur ceux qui l'entouraient. La conversation ne fut donc que de plaisanterie. Elle roula toute sur les dames de son ancienne cour des Tuileries, dont Napoléon s'informait en détail avec beaucoup de gaieté. Au lever de la lune, vers 1 ou 2 heures du matin, le bivouac fut rompu et l'on se porta sur Grasse. Là, l'empereur comptait trouver une route qu'il avait ordonnée sous l'Empire. Elle n'avait point été exécutée. Il fallut se résoudre à suivre les défilés difficiles et pleins de neige, ce qui lui fit laisser à Grasse, à la garde de la municipalité, sa voiture et 2 pièces de canon qu'il avait débarquées. C'est ce que les bulletins d'alors appelèrent une capture. La municipalité de Grasse était fort royaliste, mais l'apparition de l'empereur fut si soudaine qu'il n'y eut pas moyen d'hésiter. Elle vint donc faire sa soumission. L'empereur traversa la ville et fut s'arrêter militairement sur une hauteur un peu au-delà. On fit halte et il y déjeuna. Bientôt il y fut entouré de la population de la ville et il parcourut cette multitude comme il l'eût fait à son cercle des Tuileries. C'était la même attitude, les mêmes demandes que s'il n'avait jamais quitté la France. L'un se plaignait de n'avoir pas encore reçu sa pension, l'autre demandait qu'on voulût bien augmenter la sienne. La croix de celui-ci avait été retenue dans les bureaux, celui-là demandait de l'avancement, etc. Il lui fallut recevoir une foule de pétitions qu'on avait déjà eu le temps d'écrire et qu'on lui remettait comme s'il venait de Paris faisant une tournée dans les départements. Quelques patriotes chauds versés dans les affaires lui dirent mystérieusement que les autorités du lieu lui étaient fort opposées, mais que la masse de la population, le petit peuple, était tout à lui, qu'on attendait seulement qu'il eût le dos tourné et qu'alors il serait bientôt délivré des mécréants. « Donnez-vous-en bien garde, s'écria l'empereur, réservez-leur le supplice de voir notre triomphe sans avoir de reproche à nous faire. Soyez donc tranquille, conduisez-vous sagement. » L'empereur allait comme l'éclair. La victoire, disait-il, devait être dans ma célérité. La France était pour moi d'engre noble. Il y avait 100 lieues, moi et mes grognards, nous les fîmes en 5 jours. Eh, dans quel chemin et par quel temps! J'y entrai que M. le comte d'Artois, averti par le télégraphe, ne faisait que de quitter les Tuileries. Napoléon s'était regardé comme si sûr de la disposition des esprits et des choses que le succès, pensait-il, ne devait tenir nullement aux forces qu'il amènerait avec lui. Se garantir d'un piquet de gendarmerie, disait-il, était tout ce qu'il lui fallait. Or, tout arriva comme il l'avait calculé. La victoire marcha au pas de charge, et l'aigle national vola de clocher en clocher jusqu'au tour de Notre-Dame. Mais, ajoutait-il, ce ne fut pourtant pas d'abord sans de vives inquiétudes. À mesure qu'il avançait, toutes les populations se prononçaient avec ardeur, il est vrai. Mais il ne voyait aucun soldat, on les lui enlevait de son passage. Ce ne fut qu'entre Mure et Visil, à 5 ou 6 lieues de Grenoble et le 5e jour de route, qu'il rencontra enfin un premier bataillon. L'officier qui le commandait refusa même de parlementer. Alors l'empereur n'hésita pas. Il s'avança seul, de sa personne. 100 de ses grenadiers marchaient à quelque distance de lui, leurs armes renversées. La vue de Napoléon, son costume, sa petite redingote grise surtout, furent magiques sur les soldats, qui demeurèrent immobiles. Il continua droit à un vétéran dont les bras étaient chargés de chevrons, et le prenant rudement par la moustache, lui demanda s'il aurait bien le cœur de tuer son empereur. Le soldat, les yeux mouillés, mettant aussitôt la baguette dans son fusil pour montrer qu'il n'était pas chargé, lui répondit « Tiens, regarde si j'avais pu te faire beaucoup de mal, tous les autres sont de même !» Et des cris de « Vive l'empereur !» partent de tous côtés. Napoléon commande au bataillon un demi-tour à droite et tout marche vers Paris. À peu de distance de Grenoble, le colonel Labédoyère, à la tête de son régiment, vint se joindre à lui. Alors l'impulsion fut prononcée et la question, dit l'empereur, à peu près décidée. Tous les paysans du Dauphiné bordaient les routes. Ils étaient ivres et furieux de joie. Quand le premier bataillon, dont on vient de parler, hésitait encore, il s'en trouvait des milliers sur ses derrières, cherchant à le décider par leur cri de « Vive l'empereur !» tandis qu'une foule d'autres était sur les derrières de Napoléon, excitant la petite troupe à avancer, l'assurant qu'il ne lui serait fait aucun mal. Dans une certaine vallée s'offrit le spectacle le plus touchant qu'on puisse imaginer. C'était la réunion d'un grand nombre de communes ayant avec elles leur maire et leur curé. Du milieu de cette foule se précipite aux pieds de l'empereur un des plus beaux grenadiers de sa garde, qui manquait depuis le débarquement et sur lequel on avait même conçu des doutes. Dans ses yeux roulaient de grosses larmes de joie. Il tenait dans ses bras un vieillard de 90 ans. Il le présentait à l'empereur. C'était son père qu'il était venu chercher et qu'il amenait au milieu de cette multitude. L'empereur avait ordonné plus tard aux Tuileries qu'on peignît un tableau de cette circonstance. Napoléon arriva la nuit sous les murs de Grenoble. Sa promptitude déjouait toutes les mesures. On n'avait pas le temps de couper les ponts, ni même de mettre les troupes en mouvement. Il trouva les portes de la ville fermées. On refusait de les ouvrir. Le colonel qui commandait la place s'y opposait. Car une circonstance qui doit caractériser spécialement cette révolution sans pareil, disait l'empereur, c'est que les soldats ne manquèrent pas, jusqu'à un certain point, de discipline ni d'obéissance envers leur chef. Seulement, ils employèrent pour leur compte la force d'inertie comme un droit qu'ils auraient cru leur appartenir. Aussitôt, on vit le premier bataillon exécuter toutes les manœuvres commandées, se retirer, ne vouloir pas communiquer, mais il ne chargea point les armes, il n'aurait point tiré. Devant Grenoble, toute la garnison, sur les remparts, criait « Vive l'empereur !» On se donnait les mains par les guichets, mais on n'ouvrait pas parce que les supérieurs l'avaient défendu. Il fallut que l'empereur fît enfoncer les portes, ce qui s'exécuta sous la bouche de 10 pièces d'artillerie des remparts chargées à mitraille. Et pour achever la bizarrerie des circonstances, le chef du premier bataillon et le colonel qui s'étaient si ouvertement opposés à l'empereur, questionnés par lui s'ils pouvaient compter sur eux, répondirent que oui, que leurs soldats les avaient abandonnés, mais qu'eux n'abandonneraient pas leurs soldats, que puisqu'ils s'étaient prononcés pour lui, ils lui seraient fidèles, et l'empereur les conserva. Du reste, il n'est point de bataille où l'empereur ait couru plus de danger qu'en entrant à Grenoble. Les soldats se ruèrent sur lui avec tous les gestes de la fureur et de la rage. On en frémit un instant. On eût pu croire qu'il allait être mis en pièces. Ce n'était que le délire de l'amour et de la joie. Il fut enlevé, lui et son cheval. À peine commençait-il à respirer dans l'auberge où il avait été déposé, qu'un redoublement de tumulte se fait entendre. C'étaient les portes de la ville que les habitants venaient lui offrir, disait-il, au défaut des clés qu'on avait pu lui présenter. Une fois dans Grenoble, j'étais devenu une véritable puissance, disait l'empereur. J'eusse pu nourrir la guerre s'il fût devenu nécessaire de la faire. L'empereur regrettait fort alors n'avoir pas fait imprimer ses proclamations à l'île d'Elbe, mais il avait craint de laisser pénétrer son secret. Il les avait donc dictées à bord du brick, où tout ce qui savait écrire avait été employé à les copier. On était obligé d'en écrire encore chemin faisant, afin de les répandre dans la route, tant elles étaient avidement demandées. Elles étaient donc rares, souvent incorrectes ou même illisibles. Et pourtant, on en sentait à chaque pas la nécessité, car on s'apercevait aussitôt de toute l'impression qu'elle produisait. Ces populations se sont fort éclairées par nos 20 dernières années, et malgré tout le bonheur de revoir l'empereur, on s'y demandait avec inquiétude quel allait être son objet. Tous étaient aussitôt satisfaits quand ils avaient lu le sentiment national des proclamations, et leur joie surtout était extrême quand ils apprenaient là que Napoléon n'avait pas de troupes étrangères avec lui. Sa marche était si rapide et ses mouvements si prompts qu'on avait fait 1000 comptes sur ses forces et leur composition. On voulait qu'il y eût avec lui des Napolitains, des Autrichiens, etc., etc., et même des Turcs. De Grenoble à Paris, ce ne fut qu'une marche triomphale. Durant les 3 ou 4 jours que l'empereur demeura à Lyon, il y eut constamment plus de 20 000 âmes sous ses fenêtres. Les cris ne discontinuèrent jamais. C'était un souverain qui n'aurait jamais quitté ses sujets. Il signait les décrets, expédiait des ordres, passait des revues, etc. Tous les corps, toutes les administrations, toutes les classes de citoyens s'empressaient de faire preuve de dévouement et d'hommage. Il n'y eut pas jusqu'à la garde nationale à cheval, composée de ce qu'il y avait de plus pur et de plus ardent dans le parti opposé, qui ne vînt solliciter l'honneur de garder sa personne. Mais ils furent les seuls maltraités. Messieurs, je vous remercie de vos services, dit l'empereur. Votre conduite envers monsieur le comte d'Artois m'apprend trop ce que vous feriez à mon égard si la fortune venait à m'abandonner. Je ne vous soumettrai point à cette nouvelle épreuve. En effet, monsieur le comte d'Artois, en quittant Lyon, n'avait trouvé, assure-t-on, qu'un seul d'entre eux qui se dévoua à le suivre à Paris. Et l'empereur, sur qui tout ce qui était généreux avait des droits, apprenant la fidélité de ce volontaire, lui fit remettre la décoration de la Légion d'honneur. Enfin, l'empereur, dans Lyon, administrait déjà par des actes publics, avec cette précision, cette fermeté, cette confiance, compagne d'une stabilité non interrompue. Rien en lui ne laissait apercevoir la trace des grands revers qui avaient précédé ou des chances immenses qui pouvaient suivre. Et s'il était possible de tout raconter, j'aurais à produire une anecdote privée bien plaisante qui prouverait quels étaient le calme du cœur et la liberté d'esprit de Napoléon au milieu de la grande crise qui, autour de lui, changeait la face de la France et allait remuer toute l'Europe. À peine sorti de Lyon, l'empereur fit écrire à Ney, qui se trouvait à Lons-le-Saunier avec son armée, qu'il eut à mettre ses troupes en marche et à venir le rejoindre. Ney, au milieu de la confusion générale, abandonné par ses soldats, frappé des proclamations de l'empereur, des adresses du Dauphiné, de la défection de la garnison de Lyon, de l'élan des provinces voisines et des populations environnantes. Ney, l'enfant de la Révolution, se livra au torrent et donna son fameux ordre du jour. Toutefois, ayant présent les souvenirs de Fontainebleau, il écrivit à l'empereur que tout ce qu'il venait de faire était principalement en vue de la patrie, et que sentant qu'il avait dû prendre sa confiance, il allait se retirer chez lui. Mais l'empereur lui fit écrire de venir le joindre, et qu'il le recevrait comme le lendemain de la bataille de la Moscova. Ney, en revoyant l'empereur, se montra embarrassé et lui répéta que s'il avait perdu sa confiance, il ne lui demandait plus qu'une place parmi ses grenadiers. S'il est sûr, disait l'empereur, qu'il avait été assez mal pour moi, mais le moyen d'oublier un si beau courage et tant d'actes passés. Je lui sautai donc au cou en l'appelant le brave des braves, et dès cet instant, tout fut comme jadis, etc. Le trajet jusque Paris se fit à peu près en poste. Nulle part il n'y avait opposition, ni lutte, ni combat. Ce n'était, à l'aspect de l'empereur, littéralement parlant, qu'un simple changement de décoration théâtrale. Les avant-gardes n'étaient autre chose que les troupes qui se trouvaient en avant sur la route et auxquelles on envoyait des courriers. C'est ainsi que l'empereur est entré dans Paris avec les troupes mêmes qui en étaient sorties le matin pour le combattre. Un régiment posté à Montereau en franchit spontanément le pont, courut sur Melun et chargea les gardes du corps qui s'y trouvaient, et c'est, dit-on, ce qui décida le départ si soudain de la famille royale. L'empereur nous dit souvent que s'il l'eût voulu ou ne s'y fût pas opposé, il eût traîné avec lui à Paris 2 millions de paysans. À son approche, toutes les campagnes se levaient en masse. Aussi répète-t-il souvent qu'il n'y a eu de véritable conspirateur que l'opinion. Le lendemain de l'arrivée de l'empereur aux Tuileries, quelqu'un lui ayant dit qu'il ne vivait que de prodiges, mais que ce dernier allait effacer tous les autres, je l'entendis répondre qu'il n'avait ici d'autre mérite que d'avoir bien jugé de l'état des choses en France et d'avoir su lire dans le cœur des Français. Dans un autre moment, il nous rappelait que cela seul avait été toutes ses intelligences. Car, observait-il, si l'on excepte l'abbé Doyère, qui accourut à moi d'enthousiasme et de cœur, ou un autre encore qui me rendit franchement de grands et vrais services, presque tous les autres généraux sur la route se montrèrent incertains et de mauvaise grâce. Ils ne firent que céder à l'impulsion de leurs soldats, si même ils ne se montrèrent hostiles. Tout le monde sait bien aujourd'hui, disait-il, que Ney quitta Paris tout au roi, et que s'il tourna contre lui quelques jours plus tard, c'est qu'il crut ne pouvoir faire autrement. J'étais si loin de compter en aucune manière sur Masséna que je me crus obligé, en débarquant, de le sauter à pieds joints, et le questionnant plus tard à Paris sur ce qu'il aurait fait si je ne me fusse éloigné aussi rapidement de la Provence, il eut la franchise de répondre qu'il serait bien embarrassé de le dire, mais que le plus sûr dans tous les cas avait été d'agir comme je l'avais fait, que de la sorte le tout avait été pour le mieux. Saint-Cyr s'est vu en danger pour avoir voulu contenir des soldats confiés à ses ordres. Soult me confessa que le roi lui avait inspiré un véritable goût tant il se trouvait bien de son régime, et il ne voulut reprendre son service qu'après le champ de mai. MacDonald ne reparut point. Le duc de Bellune suivit le roi à Gand. Aussi concluait-il, si les Bourbons ont eu à se plaindre de la désertion complète du soldat et du peuple, certes ils n'ont pas le droit de reprocher le manque de dévouement ou de fidélité aux principaux chefs de l'armée, à ses élèves ou chefs de la Révolution, qui, malgré une habitude de 25 ans, disait-il, n'ont montré, dans cette circonstance, que de vrais enfants en politique. On ne les a trouvés ni émigrés, ni nationaux, etc. Napoléon avait eu l'instinct et s'était tenu fidèle à son grand principe de n'agir que sur les masses et par les masses. Au moment de l'entreprise et après son débarquement, on le sollicita plusieurs fois d'essayer de traiter avec quelques-uns des chefs, mais il fit constamment sa belle réponse « Si je suis demeuré dans le cœur de la masse, je dois m'occuper peu des chefs. » Et si je n'avais que ceux-ci, à quoi me serviraient-ils contre le torrent de la masse ? Voilà qui montrera du moins le peu d'intelligence que Napoléon avait entretenu avec la capitale. Le matin de son entrée à Paris, en arrivant de l'île d'Elbe, 150 officiers à la demi-solde, traînant 4 pièces de canon, quittent spontanément Saint-Denis, où ils avaient été stationnés par les princes, et marchent vers la capitale. Ils sont rencontrés dans la route par quelques généraux qui se mettent à leur tête et poursuivent avec cette petite troupe jusqu'au château des Tuileries où ils convoquent les chefs des administrations qui tous conviennent d'agir au nom de l'empereur. C'est ainsi que Paris fut gouverné ce jour-là, à l'amiable par le souffle de l'opinion et l'élan des affections privées. Aucun des grands partisans de l'empereur, aucun de ses anciens ministres n'ayant reçu nul avis de lui, aucun d'eux n'osa signer aucun ordre, ni prendre aucune responsabilité. Les papiers publics n'eussent pas paru le lendemain, si ce n'eût été le zèle de simples particuliers qui, sans autorisation de leur propre mouvement, les firent remplir de ce qui les animait et de ce qu'ils voyaient. Ce n'est pas autrement que Lavalette put prendre possession des postes. Paris vécut ce jour-là sans police, sans autorité, et jamais il ne fut plus tranquille. L'empereur fit son entrée aux Tuileries vers 9 heures du soir avec une centaine de chevaux, et comme s'il arrivait de son palais. Mettant pied à terre, il faillit être étouffé par un gros d'officiers et de citoyens qui se l'arrachèrent pour en toucher quelque chose et le transportèrent à bras dans son salon. Il y trouva son dîner prêt et se mettait à table. Quand arriva de Vincennes l'officier qu'on y avait envoyé le matin pour sommer le château, il y rapportait la capitulation du commandant qui n'y avait mis, dit-on, d'autres conditions que celles d'un passeport pour lui et sa famille. Une circonstance bien singulière, c'est que le matin, une fois maître des Tuileries, et comme on faisait courir dehors pour se procurer un drapeau tricolore, on en trouva un tout fait au pavillon Marsan, dans la fouille du château que faisait faire la prudence, et c'est celui qu'on fit hisser sur le champ. Il était tout neuf et d'une dimension plus grande que de coutume. On s'est demandé par quel hasard il était là et quelles avaient été les intentions à cet égard. Du reste, plus les temps se sont éclaircis, plus on a pu se convaincre qu'il ne fut d'autre conjuration que celle de la nature des choses. L'esprit de parti seul peut chercher, de nos jours, à élever des doutes à cet égard. L'histoire n'en aura point. Peu de jours après l'établissement de Napoléon à Longwood, il fut question, devant les officiers qui lui furent présentés, du retour de l'île d'Elbe, et l'un de ces officiers se hasarda de dire que cet événement merveilleux avait offert au regard de l'Europe attentive le contraste de ce qu'il y avait de plus faible et de plus sublime. Les Bourbons, abandonnant une monarchie tout entière pour s'enfuir à l'approche d'un seul homme, qui avait la magnanime audace d'entreprendre lui seul la conquête d'un empire. « Monsieur, lui dit l'empereur, vous êtes dans l'erreur, vous avez mal saisi le sens de l'affaire. Les Bourbons n'ont pas manqué de courage, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire. Monsieur le comte d'Artois a volé à Lyon, Madame la duchesse d'Angoulême s'est montrée dans Bordeaux en Amazone, et Monsieur le duc d'Angoulême a marché en avant autant qu'il a pu. Si, malgré tout cela, ils n'ont pu venir à bout de rien, c'est moins leur faute que la force des circonstances. C'est qu'à eux seuls ils ne pouvaient faire davantage, et ils en étaient là. La contagion, l'épidémie, avait gagné tout le monde, etc. Dimanche 15. Poème de Charlemagne, etc. Les frères et sœurs de l'empereur, auteur, etc. Aujourd'hui, l'empereur a profité d'un instant de beau temps pour aller se promener dans le jardin de la compagnie. J'étais seul avec lui. Je me suis livré à lui faire certaines peintures, à la suite desquelles j'osais me permettre de suggérer quelques idées. Il les a repoussées en se moquant fort de moi. « Allons, allons, mon cher, a-t-il dit, vous êtes un niais. Et ne vous fâchez pas de l'épithète, a-t-il repris aussitôt. Je ne la prodigue pas à tout le monde. Elle est toujours de ma part un brevet d'honnête homme. » Après le dîner, l'empereur, s'obstinant toujours à tâcher de se raccommoder, disait-il, avec le poème de son frère Lucien, qu'il avait repris hier au soir et bientôt abandonné, il a, comme les deux jours précédents, employé la soirée entre le poème de Charlemagne, qu'il a repris pour se refaire, disait-il gaiement, et la censure a recommencé pour le prince Lucien et l'admiration pour le bon Homère. La lecture interrompue, on a dit à l'empereur que Lucien avait tout près un autre poème semblable à son Charlemagne, c'était « Charles Martel en Corse » et en outre une douzaine de tragédies. « Mais il a donc le diable au corps !» s'est écrié l'empereur. On lui a dit aussi que son frère Louis avait fait un roman. « Il pourra y avoir de l'esprit, de la grâce, observait-il, mais ce ne sera pas toutefois sans métaphysique sentimentale, ni sans niaiserie philosophique. » On lui dit encore que la princesse Élisa avait aussi un roman, ce qu'il ne savait pas. Enfin, il n'y avait pas jusqu'à la princesse Pauline qui n'eût le sien, disait-il. « Oh, pour celle-là, a repris l'empereur, l'héroïne oui, mais l'auteur non. » Et à ce compte, observait-il, il n'y aurait donc que Caroline qui ne serait pas auteur. Aussi bien, dans sa petite enfance, on la regardait comme la sotte et la cendrillon de la famille. Mais elle l'en a bien rappelé, elle a été une très belle femme et est devenue très capable, etc. Lundi 16, nous manquons de déjeuner, sophisme de gaieté, sur les impossibilités, etc. Le matin, à l'heure accoutumée, mon domestique est venu me dire qu'il n'y avait ni café, ni sucre, ni lait, ni pain pour mon déjeuner. La veille, quelque temps avant l'heure du dîner, me sentant besoin, j'avais demandé une bouchée de pain, on avait pu me la donner. C'est ainsi qu'on y dispute le boire et le manger. On aura de la peine à le croire au loin sans doute, et pourtant je ne consigne littéralement ici que des faits. Le temps était devenu beau. Depuis longtemps, l'empereur ne s'était promené. Il a gagné le jardin, puis il a demandé la calèche pour faire notre tour ordinaire, interrompu depuis si longtemps. Chemin faisant, Madame de Montholon chassait un chien qu'il avait approché. « Vous n'aimez pas les chiens, madame ?»« Non, sire. »« Si vous n'aimez pas les chiens, vous n'aimez pas la fidélité. Mais vous n'aimez pas qu'on vous soit fidèle, donc vous n'êtes pas fidèle. » « Mais, disait-elle, mais, disait l'empereur, quel est le vice de ma logique? Renversez mes arguments, si vous pouvez, etc. » Un de nous s'était offert pour quelques manipulations il y a quelques jours. L'empereur lui a demandé s'il avait enfin obtenu son résultat. L'autre s'est plaint de n'avoir pas les objets nécessaires. « Véritable enfant de la Seine, disait l'empereur, vrai badaud de Paris qui vous croyez toujours aux Tuileries. » La véritable industrie n'est pas d'exécuter avec tous les moyens connus et donnés. L'art, le génie, est d'accomplir en dépit des difficultés et de trouver par là peu ou point d'impossible. Mais d'ailleurs ici, de quoi vous plaignez-vous? De n'avoir point un pilon quand le premier barreau de chaise peut vous en servir? De n'avoir pas de mortier, mais tout est mortier autour de nous. Cette table est un mortier, une casserole, un chaudron est un mortier. Mon auge, celle du premier venu, sont des mortiers. Ah, mais véritablement, enfant de la Seine, a répété l'empereur, qui se croit toujours dans la rue Saint-Honoré, au milieu des marchés de Paris. Le grand maréchal a dit alors à l'empereur que cette circonstance lui rappelait la première fois qu'il avait eu l'honneur de lui être présenté et les premières paroles qu'il en avait reçues. C'était à l'armée d'Italie lorsque lui, Bertrand, se rendait en mission à Constantinople. Le jeune général, le voyant officier du génie, lui donna une commission relative au métier. C'était peu loin du quartier général. À mon retour, disait le grand maréchal, je vins vous dire que j'avais trouvé la chose impossible. Sur quoi votre majesté, à qui je ne m'adressais qu'en tremblant, me dit avec bonté, mais voyons un peu, monsieur, comment vous y êtes-vous pris? Ce qui est impossible pour vous ne l'est peut-être pas pour moi. En effet, disait Bertrand, à chacun de mes moyens, votre majesté disait, je le crois bien, et en substituer d'autres, si bien qu'en peu d'instants il me fallut être convaincu, mais non sans emporter un sentiment profond et des souvenirs qui m'ont bien servi depuis. L'empereur s'est retiré de bonne heure. Il nous semble extrêmement changé, surtout depuis sa dernière incommodité. Il s'affaiblit beaucoup, deux tours de jardin le fatiguent. Mardi 17, mercredi 18, calcul statistique, population des Israélites en Égypte, etc. Le temps s'étant remis au beau, l'empereur a fait quelques tours de jardin. Nous étions tous autour de lui. Au bout de quelque temps, il s'est dirigé vers le bois. Au retour de la promenade, nous avons déjeuné sous la tente, et comme le temps était très favorable, l'empereur a eu la fantaisie de faire immédiatement après un tour en calèche. Sur les 5 heures, il m'a fait appeler dans son cabinet pour lui aider à chercher des documents sur l'intérieur de l'Afrique, dans le voisinage de l'Égypte. C'est un point qu'il occupe depuis quelques jours, ayant le projet d'en faire l'objet de quelques chapitres spéciaux de sa campagne d'Égypte. Il se trouvait souffrant et m'a dit de demander et de lui faire du thé. C'est un extraordinaire pour lui. Bientôt après, le grand maréchal est venu me remplacer pour recevoir sa dictée habituelle. Après dîner, l'empereur s'est occupé, la plume à la main, à chercher le rapport du sol productif de l'Égypte avec celui de la France. Il a trouvé celui de la France beaucoup inférieur à celui de l'Égypte. Ce calcul se faisait sur les aperçus statistiques de la France par Peuchet. L'empereur était satisfait de ce résultat. Telle avait été d'avance son opinion. De là sont venus naturellement beaucoup d'autres objets, la population probable et possible de l'Égypte des temps anciens, qu'elle avait pu être celle des Israélites, si dans le peu de temps qu'ils y étaient demeurés captifs, ils avaient pu s'accroître au point où nous le lisons dans l'Écriture, etc. Sur quoi l'empereur m'a dit de lui porter le lendemain quelque chose sur ce sujet. Enfin, l'on s'est arrêté longtemps sur les probabilités de la vie humaine dont les tableaux se trouvaient dans le même ouvrage de Peuchet, et l'empereur a dit à ce sujet des choses fort spirituelles, tout à fait neuves et piquantes. J'ai apporté à l'empereur le calcul que j'ai imaginé sur le problème qu'il m'avait donné la veille. Le résultat ne l'a pas peu surpris et lui a fourni bien des dissertations. Voici le résumé que je présentais. Les Israélites sont demeurés 200 ans en Égypte. On peut compter sur 10 générations dans cet intervalle. On se mariait jeune et surtout on avait beaucoup d'enfants. Je supposais que les enfants de Jacob, les 12 chefs de tribu, tous mariés. Je supposais aussi, mais pour un moment, chacun d'eux ayant le même nombre d'enfants ou 6 couples et ainsi de suite. La 10e génération se trouvait alors composée de 2 480 064 704 individus. Mais la génération qui précède cette 10e, et encore au moins celle qui est au-dessus, vivait en même temps. Dès lors, quelle effroyable quantité de chiffres! Toutefois, est-il donc qu'on peut diminuer hardiment le nombre d'enfants, compter à son aise sur les mortalités, les accidents, les épidémies, etc.? Et qu'il demeurera toujours certain qu'aucun calcul ne peut amener à contredire le récit de Moïse. L'empereur s'est occupé quelque temps à chercher et à faire ressortir tous les vices de mon raisonnement et s'en est fort amusé. Pendant le dîner, il s'est exercé à son anglais en faisant à mon fils, dans cette langue, des questions sur l'histoire et la géométrie. Après dîner, l'empereur a pris l'Odyssée, dont la lecture a été un véritable charme pour tous. Jeudi 19, l'empereur change et s'affaiblit, argenterie brisée. L'empereur a passé sa matinée à recueillir encore des renseignements sur les sources du Nil, dans les différents auteurs modernes, Bruce, etc. Je l'ai aidé dans ce travail. À 3 heures, il s'est habillé et est sorti. Le temps était assez beau. L'empereur a demandé la calèche et s'est enfoncé à pied dans le bois. Nous avons marché jusqu'à la vue du rocher des Signaux. Il m'entretenait de notre position morale et de certaines contrariétés que devaient lui donner quelques circonstances de notre intimité même. La calèche est venue le rejoindre avec monsieur et madame de Montholon. L'empereur se félicitait à l'arrivée de sa voiture, disant qu'il ne se sentait pas capable de regagner la demeure à pied. Il s'affaiblit visiblement, sa démarche devient pesante. Il a le pied traînant, ses traits s'altèrent. Sa ressemblance avec Joseph devient frappante, au point qu'il y a peu de jours, allant le joindre au jardin, j'aurais juré que c'était Joseph jusqu'au moment où je l'ai abordé. D'autres en ont été frappés comme moi, ce qui nous a fait dire que si nous croyons à la prévision ou à la double vue des Anglais dont j'ai parlé dans un autre endroit, nous devions nous attendre bientôt à quelque chose d'extraordinaire sur l'empereur ou sur son frère. Au retour, l'empereur a considéré un gros panier rempli d'argenterie brisée qu'on devait envoyer le lendemain à la ville. C'était désormais le complément indispensable de notre subsistance d'un mois, d'après les dernières réductions du gouverneur. On savait bien que les capitaines de la compagnie avaient offert jusqu'à 100 guinées d'une seule assiette. Cette circonstance avait porté l'empereur à ordonner qu'on limât les écussons et qu'on brisât les pièces de manière à ce qu'elles ne présentassent aucun vestige qui pût montrer qu'elles lui avaient appartenu. De petits aigles massifs surmontaient tous les couvercles, c'était la seule chose qu'il a voulu qu'on épargnât et il les a fait mettre de côté. Ces derniers débris étaient l'objet du désir de chacun de nous, ils étaient des reliques à tous les yeux. Ce sentiment avait quelque chose de religieux et de touchant. Lorsqu'il avait fallu porter le marteau sur cette argenterie, c'était devenu le sujet d'une grande émotion et d'une véritable douleur pour les gens. Ils avaient porté la main avec peine sur les objets qu'ils vénéraient tellement. Cet acte renversait leurs idées, c'était pour eux un sacrilège, une désolation. Quelques-uns pleuraient. Après le dîner, l'empereur a continué l'Odyssée et puis a lu quelques passages du poème de la navigation d'Esmena, dont il a goûté les vers. Vendredi 20, nouvelle vexation du gouverneur, topographie de l'Italie. Après 8 heures, l'empereur m'a fait éveiller pour que je fusse le trouver en calèche dans le bois où il se promenait déjà avec monsieur de Montholon, s'entretenant sur les dépenses de la maison. Le temps enfin était revenu au beau, c'était une matinée de printemps délicieuse, nous avons fait 2 tours. Aujourd'hui, nouvelle vexation incroyable du gouverneur, il nous a fait défendre de vendre l'argenterie brisée à tout autre qu'à celui qui l'indiquerait. Quelle peut avoir été son intention dans cette violation nouvelle de toute justice, de se rendre plus outrageant et de commettre un abus d'autorité de plus? L'empereur a déjeuné sous la tente. Il a dicté, immédiatement après, la bataille de Marengo au général Gourgaud. Il m'a dit de demeurer que j'écouterai. Il s'est retiré vers midi dans sa chambre pour essayer de reposer. Sur les 3 heures, il est entré dans ma chambre. Il nous a trouvés, mon fils et moi, occupés à collationner Arcole. Il savait que c'était mon chapitre de prédilection, que je l'appelais un chant de l'Iliade. Il a voulu le relire et a dit qu'en effet, il lui faisait plaisir. Je l'ai inséré plus haut. Dans le principe, l'empereur faisait lire ses chapitres le soir, mais une de ces dames s'était endormie, il n'y revint plus, et me disait un jour à ce sujet « Les entrailles d'auteur, mon cher, elles se retrouvent toujours ». La lecture d'Arcole a réveillé les idées de l'empereur sur ce qu'il appelait « ce beau théâtre d'Italie ». Il nous a commandé de le suivre au salon et nous y a dicté durant plusieurs heures. Il avait fait étendre une immense carte d'Italie qui couvrait la plus grande partie du salon, et couché dessus, il a parcouru à 4 pattes un compas et un crayon rouge à la main, comparant et mesurant les distances à l'aide d'une longue ficelle dont l'un de nous tenait une des extrémités. « C'est comme cela, nous disait-il, riant de la posture où je le voyais, qu'il faut toiser un pays pour en prendre une idée juste et faire un bon plan de campagne. » Ce qu'il a dicté peut servir de base à un très beau morceau de géographie politique sur l'Italie. Le voici, sans que j'aie pu d'ailleurs le lui reproduire au net, ayant été enlevé de longue route avant que ce travail eût été définitivement arrêté. Note. L'Italie est une des plus belles parties de l'Europe. C'est une presqu'île environnée à l'ouest, au sud et à l'est par la Méditerranée et l'Adriatique. Elle est bordée du côté du continent par la chaîne des Alpes, montagnes les plus hautes de l'Europe, d'où descendent les rivières qui forment la vallée du Pô et se jettent dans l'Adriatique. Cette chaîne la sépare de la Suisse, de l'Allemagne et de la France. Elle forme un demi-cercle depuis le nord-ouest jusqu'au nord-est. Ce demi-cercle peut être considéré comme décrit de Parme pris pour son centre. Son extrémité de gauche passe sur l'embouchure du Var, son milieu sur le Saint-Gothard et son extrémité de droite sur l'embouchure de l'Isonzo. Voilà les bornes naturelles du continent de l'Italie. En dedans de ces limites se trouvent les bailliages suisses, la Valteline, une partie du Tyrol, pays tous sur le penchant des Alpes vers l'Italie, qui en font ainsi géographiquement partie, bien qu'ils ne lui appartiennent pas politiquement. C'est une espèce de compensation pour le duché de Savoie, parti politique de l'Italie, bien qu'elle lui soit géographiquement tout à fait étrangère, puisqu'elle est au-delà des Alpes et que toutes ses eaux se déversent dans le Rhône. Du côté de l'Est, Monfalcone et le comté de Gorice et une partie de l'Istrie ont toujours fait partie de l'Italie, bien qu'en dehors de notre demi-cercle. Il est vrai qu'une autre limite naturelle serait encore de suivre la chaîne des Alpes et de la Carniole, qui prend au-dessous de l'Idria et arrive jusqu'à Fiume. La Dalmatie, les bouches du Cataro, etc., soumises à la République de Venise depuis plusieurs siècles, ont toujours été considérées comme faisant partie de l'Italie, mais géographiquement, elles appartiennent à l'Illyrie. Il est d'elles comme de la Savoie. Les deux grandes îles de Sicile et de Sardaigne font aussi partie de l'Italie. L'Italie à l'ouest est séparée de la France par le Var, les monts Viseau, Genève, Senis, Saint-Bernard et Saint-Plon. Elle est séparée au nord de la Suisse par le Saint-Plon et le Saint-Gothard. Enfin, le Brenner, le col de Tarvis et l'Isonzo la séparent des États héréditaires de la maison d'Autriche. L'Italie confine avec la Provence et le Dauphiné, province de France. Elle confine avec le Tyrol, la Carinthie, la Carniole et l'Istrie, province de l'Autriche. La France communique avec l'Italie en passant le Var aux environs de Nice. De là, on gagne Gênes et Florence par le chemin de la Corniche et Turin par le col de Tende. La France communique encore avec l'Italie par les monts Genèvre, Senis et du Petit Saint-Bernard. La Suisse communique avec l'Italie par l'école du Grand Saint-Bernard, du Saint-Plon et du Saint-Gothard. L'Allemagne communique avec l'école de Brenner, de Tarvis et par les divers débouchés de l'Isonzo. Le Saint-Gothard est le col le plus élevé des Alpes. À partir de ce col, les autres vont toujours en baissant. Ainsi, le Saint-Gothard est plus haut que le Brenner, celui-ci que les montagnes de Cador, les montagnes de Cador que le col de Tarvis et les montagnes de la Carniole. De l'autre côté, le Saint-Gothard est plus haut que le Saint-Plon plus haut que le Saint-Bernard plus haut que le Mont-Cenis que le col de Tende. Depuis celui-ci, les Alpes continuent à baisser et finissent enfin aux montagnes Saint-Jacques, près de Savone, où commencent les Apennins. Alors la chaîne de l'Apennin se relève toujours en augmentant par un mouvement inverse. Elle longe toute la presqu'île jusqu'à l'extrémité du royaume de Naples. Les Apennins sont des montagnes de second ordre. Une partie de leurs eaux se rendent dans le Pô, le reste coule dans l'Adriatique et la Méditerranée. De l'embouchure du Var à celle de l'Isonzo, diamètre de la semi-circonférence, il y a 125 lieues de 25 degrés, ce qui donnerait à la semi-circonférence des Alpes, si elle était régulière, 180 lieues. Mais à cause des sinuosités, on en compte plus de 230. Ainsi, tous les points des Alpes sont éloignés de Parme de 50 à 60 lieues. Depuis Parme jusqu'à Rome, il y a 80 lieues, et depuis Rome jusqu'à l'extrémité de la Basilicate, où remonte le golfe de Tarente, 95 lieues, et jusqu'à Reggio, extrémité de la Botte, 120 lieues. Ainsi, depuis le Saint-Gothard jusqu'à Reggio, il y a 250 lieues. Les 50 lieues du nord jusqu'à Parme pourront être regardées comme continentales. Les 200 autres formeront la presqu'île qui commencera à la hauteur de Parme et aura dans toute son étendue environ 40 ou 50 lieues de large. Car de Livourne à Rimini, il y a 50 lieues, de Terracina à Terimoli, 40 lieues, de Naples à Manfredonia, 40 lieues, de Monteleone à Brindisi, 60 lieues. De Reggio à Naples, la carte de poste montre 170 lieues, de Naples à Rome, 60 lieues, ce qui fait 230, de Rome à Parme, 92 lieues, de Parme au Saint-Gothard, 100 lieues, ce qui ferait du Saint-Gothard à Reggio 422 lieues de poste. En ôtant un dixième, il resterait 380 lieues. Nous en avons compté que 250, une différence 130 ou un tiers entre la distance astronomique et les grandes routes, qui sont obligées de suivre les contours des montagnes et de passer par les grandes villes, et dans le calcul desquelles on est forcé de considérer les pentes et les difficultés des chemins, comme aussi les privilèges que demandent les localités et qu'établissent les maîtres de poste. La partie de l'Italie contenue dans le demi-cercle a 5000 lieues carrées. À partir du diamètre de ce demi-cercle, l'Italie se prolonge en forme de botte qui, ayant 200 lieues de longueur, donne depuis Parme jusqu'au golfe de Tarente 8000 lieues carrées. La Sicile avec la Sardaigne 2000 lieues carrées, total 15 000 lieues carrées. Ainsi, près des deux tiers de l'Italie sont répartis sur une ligne prolongée environnée de tous côtés des mers Méditerranée et Adriatique. Cette singulière configuration a incontestablement contribué aux destinées de ce beau pays. Si la presqu'île, au lieu de 40 à 50 lieues de large, en avait eu 90 ou 100 lieues, et avait été moins longue de moitié, le point central aurait été plus rapproché de toutes les extrémités. Les intérêts seraient devenus plus communs. La nation, répandue sur de plus petites distances, aurait eu plus d'uniformité, et elle aurait lutté avec plus d'avantage contre les actes qui tendaient à la morceler et la force d'adhérence qui a constitué la France, l'Angleterre, l'Espagne, eût également agi sur l'Italie. Les côtes de la rivière de Gênes sont de 50 lieues, la presqu'île a environ 250 lieues de côte de chaque côté. La base, depuis Reggio jusqu'à Tarente et au-delà, a 100 lieues, ce qui ferait 650 lieues pour le littoral de la péninsule d'Italie. Les côtes de l'État de Venise jusqu'à Fiume ont 30 lieues, celles de la Sicile 250 lieues. L'Italie a donc un littoral de 11 à 1200 lieues, c'est-à-dire égal à celui des îles britanniques, qui est aussi de 1200 lieues et presque le double de celui de la France, qui n'est que de 700 lieues. Les villes de Nice, de Gênes, de Livourne, toutes les petites villes sur les côtes des deux rivières de Gênes, sont très peuplées. La population de Naples et de toutes les villes du royaume, celle d'Ancône et de toutes les petites villes de la Romagne, enfin celle de Venise, celle des côtes de la Sardaigne, de Cagliari, etc., en Sicile, celle de Palerme, Syracuse, etc., etc., forment une population maritime d'une grande importance. Les rades de Ventimiglia, de Vado, de Gênes, de La Spezia, de Forteferraggio, du golfe de Naples, de Tarente, d'Ancône, de Venise, celles de la Sicile, celles de l'Istrie, de la Dalmatie, de Raguse, les bouches du Cataro appartiennent toutes à l'Italie. Si toutes ces parties eussent été réunies en un grand État, il eût été une des puissances maritimes du premier ordre. Les chanvres de la vallée du Pô, les bois de l'Apennin, ceux de l'Istrie, les fers de l'île d'Elbe, du Bréchian, fourniraient en abondance tout ce qui est nécessaire pour le matériel d'une grande marine. Gênes, Pise, Venise ont été les premières puissances maritimes de l'Europe dans le Moyen-Âge. L'Italie, battue de trois côtés par la mer, n'a de frontières de terre qu'à peu près 200 lieues. C'est moins que le tiers des frontières de la France. Et encore, en front, serait-elle défendue par les barrières les plus fortes qui puissent repousser les nations. L'Italie, ayant 17 à 18 millions de population, compris ces deux grandes îles, pourrait facilement avoir une armée de 300 000 hommes. Dans l'état actuel de son agriculture, elle se fût difficilement procuré les chevaux nécessaires, mais dans le Moyen-Âge, elle en produisait beaucoup, et si cette nation eût été toujours militaire, elle eût continué la culture des chevaux. La bravoure des troupes italiennes ne peut être mise en doute à aucune époque. Il suffit de nommer Rome et tous les condottieri du Moyen Âge et de nos jours les troupes de la République cisalpine ou du Royaume d'Italie, etc. Appelée par sa position et l'étendue de ses côtes à être la dominatrice de la Méditerranée, l'Italie n'aurait à craindre d'invasion que par les Alpes, plus facile à défendre que toute autre frontière de l'Europe. Une vingtaine de places fortes, grandes et petites, suffirait pour intercepter tous les débouchés des Alpes. Tant que l'Italie a été livrée à elle-même ou que l'influence de l'Allemagne et de la France n'a été qu'auxiliaire et n'a pas tout maîtrisé, l'Italie s'est divisée en trois masses, qui sont les divisions géographiques naturelles. Premièrement, au nord, la vallée du Pô, comprenant tous les pays qui versent leurs eaux dans le Pô. Ils sont d'un même niveau et peuvent communiquer entre eux. C'est la Belgique et la Hollande de l'Italie, et Venise et l'Amsterdam. Ils comprennent le Piémont, la Lombardie, les Légations et la République de Venise. Deuxièmement, au milieu de la péninsule, d'un côté la Toscane et les États du Pape à l'ouest de l'Apennin, c'est la vallée de l'Arno et du Tibre. De l'autre, tous les pays situés à l'est de l'Apennin, entre la vallée du Pô et la frontière napolitaine. En totalité, ils comprennent le Grand-Duché de Toscane, les États de l'Église et la République de Luc. Troisièmement, enfin, au midi, le royaume de Naples, qui a toujours fait une division géographique et politique distincte. Dans cette définition, la Romagne doit faire partie de l'Italie du Nord, parce que c'est une plaine qui communique avec la plaine du Pô. Mais toute cette grande population, professant la même religion, jouissant également des douceurs d'un climat très tempéré, ayant le même langage, la même littérature, doit s'influencer réciproquement et finir par s'agglomérer, comme l'ont fait les divers royaumes britanniques, les diverses provinces de l'Allemagne, celles de la France, comme le feront peut-être un jour celles de l'Allemagne. Les parties italiennes ont eu et ont encore plus de choses en commun entre elles que n'en avaient toutes celles-là. Et si jamais un grand événement avait lieu, quelle serait la capitale? L'Italie, par sa configuration, n'a pas de ville centrale. Serait-ce Rome, Milan, Bologne ou Florence? Gênes ni Venise ne sauraient y prétendre, elles sont trop aux extrémités. Premièrement, Rome, par ses souvenirs, par ce qu'elle est déjà et par sa position, pourrait espérer à redevenir encore la capitale de cette belle contrée. Elle se trouverait à 130 lieues de tous les points de la frontière des Alpes où l'Italie peut être attaquée par la France ou l'Allemagne. Elle serait à 100 lieues des extrémités méridionales du royaume de Naples et des côtes de la Sicile, un peu moins de celles de la Sardaigne. Paris, la capitale de la France, est à 60 lieues de ses frontières du nord, à 40 lieues de la Manche, à 100 lieues du golfe de Gascogne, à 150 lieues de la Méditerranée. La malsaineté de l'air, l'infertilité des environs, le manque d'un grand port et d'une rade à porter seraient les grands défauts de Rome, prise pour capitale. Deuxièmement, si l'Italie finissait avec les duchés de Parme, Plaisance et Guastella, c'est-à-dire si elle ne comprenait que la vallée du Pô et n'avait point de presqu'île, alors Milan serait sa capitale naturelle. Encore serait-ce un grand défaut que cette ville ne pût avoir la ligne du Pô pour se défendre contre les invasions de l'Allemagne. Mais dans l'agglomération du peuple italien, Milan ne saurait devenir sa capitale, étant trop rapprochée des frontières de l'invasion et trop éloignée des autres extrémités exposées au débarquement. Troisièmement, dans ce dernier cas, Bologne serait infiniment préférable, parce que, dans le cas de l'invasion, les frontières forcées, elle aurait encore pour défense la ligne du Pô, et que sa position géographique, ses canaux, la mettent en communication immédiate et prompte avec le Pô, Livourne, Gênes, Civitavecchia, les ports de la Romagne, Ancône et Venise, et qu'elle est beaucoup plus rapprochée des côtes que Naples. Quatrièmement, si l'Italie finissait au royaume de Naples et que, partie de Naples et de la Sicile, puisse venir remplir le vide qui la sépare de la Corse, alors seulement Florence pourrait prétendre à être la capitale de l'Italie, parce qu'elle se trouverait dans une position centrale. En 1796, au moment de l'entrée des Français en Italie, cette belle contrée était partagée en un grand nombre de souverainetés. Premièrement, le roi de Sardaigne, qui était maître du comté de Nice, bordait la rive gauche du Var et était en possession de tous les débouchés des Alpes jusqu'au Simplon qui le séparait de la Suisse. Au-delà des Alpes, il possédait la Savoie, mais géographiquement, cette province doit être considérée comme française. Les États du roi de Sardaigne étaient séparés à l'est de la Lombardie autrichienne par le Tessin, borné au midi par la crête supérieure des Apennins, qui les séparait de la République de Gênes et du duché de Parme. Leur population, y compris la Savoie et le comté de Nice, était de 2 400 000 habitants, ce qui, avec la Sardaigne, formait une population de près de 3 000 000 d'habitants. Ce pays avait 12 ou 15 places fortes, une armée de 25 000 hommes en temps de paix, elle était doublée en temps de guerre avec un pareil nombre de milices. Turin, la capitale, avait 80 000 habitants, elle était fortifiée. Deuxièmement, la République de Gênes était séparée à l'ouest par la Roya du comté de Nice. Au nord, elle était séparée des États du roi de Sardaigne par la haute chaîne de l'Apennin. À l'est, elle était séparée du duché de Parme par la même chaîne et s'appuyait au grand-duché de Toscane. Au midi, elle a la Méditerranée. Sa population était de 500 000 habitants. La ville de Gênes avait 120 000 âmes. La place était forte, quoique les fortifications fussent un peu étendues. Troisièmement, le duché de Parme, formé des duchés de Parme, de Plaisance et de Guastalla, était séparé de la Lombardie autrichienne par le Pô. Il avait au sud-ouest la République de Gênes, à l'ouest le Piémont et à l'est le duché de Modène. Sa population était de 500 000 habitants. Parme est une ville de 40 000 âmes. Parme pouvait avoir 2 500 à 3 000 hommes sous les armes. Et quatrièmement, la Lombardie autrichienne. À l'ouest, elle était séparée du Piémont par le Tessin, fleuve large et rapide, de la Suisse au nord par les Alpes, au midi par le Pô qui la séparait des duchés de Parme, de Plaisance et de Guastalla. À l'est, elle était bornée par les États vénitiens. Sa population était de 1 100 000 habitants. Milan, sa capitale, était une ville de 30 à 40 000 âmes. La Lombardie avait plusieurs places fortes, spécialement Mantoue et la citadelle de Milan. Cinquièmement, la République de Venise. Elle était séparée de la Bavière par le Tyrol, de la Carinthie par les Alpes noriques et de la Carniole par l'Isonzo. Au milieu, elle était bordée par l'Adriatique et le Pô, lequel la séparait des États du Pape. Elle possédait, au-delà de l'Isonzo, l'Istrie, la Dalmatie, les bouches du Catarrhe. À l'entrée de l'Adriatique, Zante, Céphalonie, Périgord et Sainte-Maure. Sa population était de 3 500 000 habitants. Venise comptait 140 000 habitants. Elle avait plusieurs places fortes, Peschiera, Porto Legnano, Palmanova en Italie, Zara et les Bouches du Catarrhe en Dalmatie. Elle avait un état militaire de plus de 30 000 hommes, un arsenal en construction maritime et une flotte de 12 à 15 bâtiments de 54, sans compter les frégates, briques et autres petits bâtiments. Et sixièmement, le duché de Modène. Un prince de la maison d'Este, seul rejeton de cette ancienne maison, régnait à Modène et possédait les duchés de Modène, Reggio et de la Mirandole, situés entre les duchés de Parme et de Toscane, la Lombardie et les États du Pape. Sa population est de 350 000 âmes. Modène est une ville de 20 000 habitants. La maison d'Este s'éteignait avec le vieillard alors régnant et l'héritière du duché était la duchesse Béatrice, qui était mariée avec un archiduc. Modène peut avoir 5 à 6 000 hommes sous les armes. Septièmement, les États du Pape. Ils étaient séparés de la République de Venise par le Pô, du duché de Modène par le fort urbain, de la Toscane par les Apennins. Ils étaient bordés à l'est par l'Adriatique et au sud par le royaume de Naples. Le Pape possédait l'embouchure du Pô, le port et la citadelle d'Ancône sur l'Adriatique, le port et la place forte de Civita Vecchia sur la Méditerranée. Sa population est de 2 400 000 âmes et celle de Rome de 140 000. Le pape pouvait avoir 6 à 7 000 hommes sous les armes. Huitièmement, la Toscane. Elle était possédée par un archiduc d'Autriche et séparée de la République de Gênes par la République de Lucques, du duché de Modène par les Apennins. Elle avait à l'ouest la Méditerranée. La Toscane avait 1 000 000 de population. Florence, sa ville capitale, avait 80 000 âmes. elle avait sur la Méditerranée le port de Livourne et comptait 6 000 hommes sous les armées et 3 frégates. Neuvièmement, la République de Luc, placée entre la Toscane et les États de Gênes, formait une population de 100 000 hommes. Dixièmement, enfin, le royaume de Naples, qui avait au nord les États du Pape, se trouvait entouré de tous les autres côtés par la Méditerranée. Ce pays était séparé de la Sicile, qui lui est opposée par un détroit de 2 000 toises seulement. Sa population était d'à peu près 6 000 000, y compris Naples, la Sicile et les petites îles dépendantes. Naples comptait une population de 400 000 âmes. Le roi de Naples pouvait mettre 60 à 80 000 hommes sur pied. Il n'avait que 2 vaisseaux de 64 et quelques frégates. L'Italie entière était partagée entre la maison de Bourbon et la maison d'Autriche. De toutes les maisons souveraines qui avaient survécu aux républiques du Moyen-Âge, il ne restait plus que celle d'Est. Samedi 21. Fameuse créance de Saint-Domingue, inspecteur aux revues, etc., projets administratifs, composition de l'armée, Gaudin, Mollion, de Fermont, la QE, etc., ministre du Trésor, ministre secrétaire d'État, leur importance. L'amiral Malcolm m'a fait une petite visite. Il venait prendre congé de nous tous. Il allait partir le lendemain pour le Cap et comptait faire une absence de 2 mois. Nous le regrettons. Ses formes toujours polies, une espèce de sympathie tacite entre nous, le met sans cesse dans notre esprit en opposition avec Sir Hudson Lowe qui lui ressemble si peu. L'amiral avait été reçu de l'empereur qui a aussi un penchant pour lui. Ils avaient fait ensemble quelques tours de jardin et l'amiral me disait avoir recueilli des choses bien précieuses sur l'Escaut et sur le Niventip, établissement maritime en Hollande qui lui est tout à fait étranger et dont Napoléon était le créateur. Après le dîner, la conversation s'est trouvée amenée sur ce que l'empereur appelait la fameuse créance de Saint-Domingue. Elle a fait naître les détails curieux que voici. L'ordonnateur de Saint-Domingue, disait l'empereur, s'avisa de tirer tout à coup du cap et sans autorisation la somme de 60 000 000 de lettres de change sur le trésor de Paris. Ces lettres de change étaient toutes payables le même jour. La France n'était pas assez riche pour un pareil acte. Elle ne l'avait jamais été, peut-être. D'ailleurs, où et comment l'administration de Saint-Domingue pouvait-elle avoir conquis un tel crédit? Le premier consul ne le possédait pas à Paris. C'est tout ce qu'eût pu obtenir M. de Necker au fort de sa popularité. Quoi qu'il en soit, quand ces lettres parurent à Paris, précédant les lettres d'avis même, on accourut au trésor chez le premier consul pour savoir ce qu'il y aurait à faire. « Attendre les lettres d'avis, répondit-il, et connaître la négociation. Le trésor est un propriétaire, il a leurs droits et doit avoir leur marche. Ces lettres ne seront point acceptées, elles ne sont point payables. » Les renseignements, les lettres comptables arrivèrent. Ces lettres de change, mentionnées « valeur reçue comptant », ne portaient dans le reçu des caissiers qui en avaient perçu la valeur qu'un dixième, un cinquième, un tiers du montant. Dès lors, on ne voulut au trésor reconnaître et rembourser que la somme réellement versée. Et les lettres de change, dans leur teneur, furent targuées de faux. Ce fut au même moment un bruit terrible dans tout le commerce. On s'agita beaucoup, on fit une députation auprès du premier consul qui, loin de l'éviter, l'aborda de front, demanda si on le prenait pour un enfant, si l'on croyait qu'il se jouait ainsi du plus pur sang du peuple, qu'il fût un administrateur aussi tiède des intérêts publics. Ce qu'il refusait de laisser prendre, observait-il, ne tenait nullement à sa personne, n'attaquait point sa liste civile, mais c'était l'argent du public dont il était le gardien, et il lui était d'autant plus sacré. Puis, interpellant les deux chefs de la députation, « Vous qui êtes négociants, messieurs, banquiers, faiseurs d'affaires, répondez catégoriquement. Si un de vos agents, au loin, tirait sur vous des sommes énormes contre votre attente et vos intérêts, accepteriez-vous, payeriez-vous ces lettres de change ?» Il leur fallut bien répondre que non. « Eh bien, dit le premier consul, vous, simple propriétaire, vous, majeur, maître de vos propres actions, vous voudriez avoir un droit que vous refuseriez à moi, propriétaire au nom de tous, à moi, en cette qualité, toujours mineur et sujet à révision ? je jouirai de vos droits, au nom et pour le bien de tous. Vos lettres de change ne seront payées que pour leur versement réel. Je ne demande pas que le commerce prenne les lettres de change de mes agents. C'est un honneur, un crédit que je n'ambitionne point. S'il l'accorde, que ce soit à ses risques et périls. Je ne reconnais et ne tiens pour sacré que l'acceptation de mon ministre du Trésor. On se récria de nouveau, on dit beaucoup de paroles inutiles. On serait obligé de faire banqueroute, disait-on, on avait reçu ces lettres pour argent comptant. Des agents éloignés en avaient fait la faute, par respect et par confiance dans le gouvernement, etc. « Eh bien, répondit le premier consul, faites banqueroute. » Mais ils ne le firent point, observait l'empereur. Ils n'avaient point reçu ces lettres pour argent comptant, et leurs agents n'avaient point commis de faute. Ils sortirent tous convaincus dans l'âme des raisons du premier consul, mais n'en firent pas moins remplir Paris de leurs clabauderies et de leurs mensonges en dénaturant toute l'affaire. Ces exemples et ces détails, disait l'empereur, deviennent la clé d'un grand nombre d'autres affaires célèbres dont on a beaucoup parlé à Paris sous l'administration impériale. Le commerce avait dit, surtout et répété, que c'était une chose sans exemple qu'une pareille marche, qu'une telle violation était inconnue jusque-là. Mais à cela, le premier consul répondait que ce serait trancher la difficulté contre eux que d'invoquer l'exemple, et leur citait les billets de Louis XVI, les liquidations du régent, la société du Mississippi, la liquidation de la guerre de 1763, celle de la guerre de 1782, etc. Et il leur prouva que ce qu'ils disaient être sans exemple avait été la pratique constante de la monarchie. De là, l'empereur est passé à diverses branches de l'administration. Il a défendu l'institution des inspecteurs aux revues. Par eux seuls, disait-il, on pouvait s'assurer du nombre des hommes présents. Avec eux seuls, on avait pu obtenir cet avantage et il était immense pour l'actif et le personnel de la guerre. Quant à la partie de l'administration de la guerre, ces inspecteurs n'étaient pas moins avantageux encore. Quelques petits abus qui fourmillassent dans les détails, c'était en grand qu'il fallait considérer. Et pour bien juger l'institution, il fallait se demander quels autres abus n'auraient pas eu lieu si elle n'existait pas. « Pour moi, disait Napoléon, je dois dire que, faisant la contre-épreuve des dépenses, c'est-à-dire regardant la somme qu'aurait dû coûter la totalité des hommes à leurs taux arrêtés, le paiement du trésor a toujours été au-dessous de l'estimation. L'armée coûtait donc moins qu'elle n'eût dû coûter. » Quel autre plus heureux résultat pouvait-on demander? L'empereur citait l'administration de la marine pour avoir été la plus régulière, la plus pure. Elle était devenue un chef-d'œuvre. Là avait été le grand mérite de Crèze, disait-il. L'empereur trouvait que la France était trop grande pour un ministre de l'administration de la guerre. C'était au-dessus des forces d'un homme, disait-il. On avait centralisé à Paris les décisions, les marchés, les fournitures, les confections, et subdivisé la correspondance du ministre en autant de personnes qu'il y avait de régiments et de corps. Il fallait au contraire centraliser les correspondances et subdiviser les ressources en les transportant dans les localités mêmes. Aussi j'avais longtemps médité le projet de former en France 20 ou 25 arrondissements militaires qui eussent composé autant d'armées. Il n'y eut plus eu que ce nombre de dépôts, de comptabilité, etc. C'eût été 20 sous-ministres. Il eût fallu trouver 20 honnêtes gens. Le ministre n'eut plus eu que 20 correspondances. Il eût centralisé le tout et fait mouvoir la machine avec rapidité, etc. Ce sujet l'a conduit à traiter les bases de l'armée d'une grande nation telle que la nôtre. Il a développé ce qu'il se proposait d'exécuter à la paix générale s'il eût pu l'obtenir. Ces objets, extrêmement curieux, étaient si confusément exprimés dans mon manuscrit que je les ai laissés passer tout d'abord dans la crainte de ne pas les rendre avec exactitude, mais je les retrouve dictés plus tard par lui-même, tome 1er, page 226, publication de M. de Montholon, et je ne puis me refuser aujourd'hui à reproduire quelques-unes de ses principales idées telles que cette publication récente m'a mis à même de le redresser dans mon manuscrit. Elles seront agréables aux gens du métier. Napoléon voulait composer son armée de 1 200 000 hommes. savoir 600 000 pour l'armée de ligne, 200 000 pour l'armée de l'intérieur et 400 000 pour l'armée de réserve. Et tout cela ne devait soustraire constamment à l'agriculture que 288 000 hommes. Il devait être de principe, disait-il, que l'infanterie d'une armée étant représentée par un, la cavalerie serait un quart, qui pourrait se réduire à un cinquième à cause des pays de montagne, l'artillerie un huitième, les troupes du génie un quarantième, les équipages militaires un trentième. D'après ces bases, il arrêtait les 600 000 hommes de ligne de la manière suivante. Premièrement, 40 régiments d'infanterie de 12 bataillons, chacun de 910 hommes, ayant un escadron d'éclaireurs de 360 chevaux, une batterie de 8 canons servie par 280 hommes, une compagnie de sapeurs de 150 hommes, un bataillon d'équipage militaire de 22 voitures et de 210 hommes, nombre rond par régiment, 12 000 hommes. Total 480 000. 20 régiments de cavalerie de 3 600 hommes, savoir 8 de cavalerie légère, 6 de dragons, 6 de cuirassiers. Chaque régiment de 10 escadrons de 360 hommes, partagés en 3 compagnies, total 72 000. Troisièmement, 10 régiments d'artillerie formant 8 bataillons de 500 hommes, total 40 000. Quatrièmement, un régiment de génie de 8 bataillons de 500 hommes, total 4 000. Cinquièmement, un régiment d'équipage militaire de 4 000 hommes, total 4 000, somme égale 600 000. L'Empire, observait-il, contenait plus de 40 millions de population. Il eût été divisé en 40 arrondissements, chacun d'un million, lesquels eussent été assignés à chacun des 40 régiments d'infanterie pour le recrutement. Si l'on eût craint comme obstacle l'esprit de fédéralisme, on y eût remédié en introduisant dans le régiment que des officiers et partie des sous-officiers étrangers à l'arrondissement. L'armée de l'intérieur de 200 000 hommes eût été composée de 200 bataillons d'infanterie et de 400 compagnies de canonniers destinées en temps de guerre à défendre les places fortes et les côtes. Cette armée n'eût eu que les officiers d'existants. Les sous-officiers et les soldats n'eussent été réunis que le dimanche au chef-lieu de leur commune. Les 400 000 hommes de l'armée de réserve n'eussent existé que sur le papier. Ils eussent été seulement soumis à une revue tous les 3 mois pour certifier leur existence et rectifier leur signalement. Ces 1 200 000 hommes n'eussent cependant soustrait à l'agriculture que 288 000 hommes. Car sur les 600 000 hommes de l'armée de ligne, on n'en eût tenu que 240 000 hommes sous les armes pendant 12 mois, 160 000 hommes pendant 3 mois et 200 000 pendant 15 jours, ce qui n'eût fait en réalité que 288 000 seulement de soustrait à l'agriculture. Les 600 000 de l'armée de l'intérieur et de la réserve n'étant en rien distraits de leurs travaux ni éloignés de leur foyer. L'empereur, continuant à passer en revue les principes de haute administration, disait que messieurs Gaudin et Mollien étaient pour que les receveurs généraux, les hommes de finances publiques, les fournisseurs, eussent de très grandes fortunes, puissent faire de très grands profits et les avouer, de manière qu'ils eussent une considération à ménager, un honneur à ne pas compromettre. Cela ne pouvait pas être autrement, disait-il, si l'on voulait tirer d'eux au besoin du soutien, du service, du crédit. Un autre parti, continuait-il, de Fermont, Lacué, Marbois, pensait au contraire qu'on ne pouvait être trop regardant, trop économique, trop rigoureux. Moi, je penchais, concluait-il, pour l'opinion des premiers, jugeant que les vues des derniers étaient petites, n'étaient que celles qui convenaient à un régiment et non pas à une armée, à un ménage privé et non pas à un grand empire. Je les appelais les puritains, les jansénistes du métier. L'empereur disait que le ministre du Trésor et le ministre secrétaire d'État étaient deux de ces institutions dont il se félicitait davantage et qui lui avaient rendu le plus de services. Le ministre du Trésor concentrait toutes les ressources et contrôlait toutes les dépenses de l'Empire. Du ministre secrétaire d'État émanaient tous les actes. C'était le ministre des ministres, donnant la vie à toutes les actions intermédiaires. Le grand notaire de l'Empire, signant et légalisant toutes les pièces. Avec le premier, je connaissais à chaque instant l'état de mes affaires. Avec le second, je faisais parvenir toutes mes décisions et mes volontés dans toutes les directions et partout. si bien qu'avec mon ministre du Trésor et mon ministre secrétaire d'État seul, et une douzaine de scribes, je me fusse fait fort de gouverner l'Empire du fond de l'Illyrie ou des rives du Yémen avec autant de facilité que dans ma capitale. L'empereur ne comprenait pas que les affaires pussent aller avec les quatre ou cinq secrétaires d'État de nos rois. Aussi, comment allait-elle, disait-il, tous concevaient, exécutaient, se contrôlaient, chacun de son côté. Ils pouvaient exécuter au rebours les uns des autres, car les rois, se contentant de signer en marge les projets ou légalisant seulement le bordereau de leurs ordonnances, les secrétaires d'État pouvaient exécuter ou remplir à leur gré sans danger de responsabilité matérielle. Ajoutez qu'ils avaient la griffe qu'on avait voulu me faire adopter et que j'avais repoussée comme l'arme des rois fainéants. Parmi ces ministres, les uns pouvaient avoir de l'argent sans emploi et les autres ne pas marcher faute d'avoir un denier. Point de centralité qui pût coordonner leurs mouvements, disposer leurs besoins, ajuster leur exécution. L'empereur observait que le ministre secrétaire d'État était précisément le véritable lot des princes incapables, mais susceptibles, lesquels auraient besoin d'un premier ministre et n'en voudraient point convenir. « Mon ministre secrétaire d'État, disait-il, une fois qu'il eût été nommé président du Conseil d'État, se serait trouvé, dès cet instant, un véritable premier ministre dans toute l'étendue du terme, car il eût porté ses idées au Conseil d'État pour faire rédiger les lois et eût signé au nom du prince. Aussi, avec les mœurs de la première race, disait-il, ou des princes à l'avenant, mon secrétaire d'État n'eût pas manqué en peu de temps d'être un maire du palais. » Dimanche 22. Intention de Napoléon sur les classiques anciens. Révision et refonte des chapitres de l'armée d'Italie. L'empereur est revenu à ses recherches sur l'Égypte. Il m'a donné Strabon à feuilleter. C'était l'édition qu'il avait fait faire. Il en vantait le soigné et le fini, et disait que son projet avait été de nous donner ainsi, avec le temps, tous les anciens, par la voie officielle de l'Institut. Avant dîner, l'empereur m'a fait appeler avec mon fils et a passé au moins 6 heures à relire et à refondre les chapitres du Tagliamento de Léoben et de Venise. Tout est beau dans ces chapitres de la campagne d'Italie. Dans celui du Tagliamento, on voit qu'une seule disposition prise sur les bords du fleuve et à peine aperçue, ce que l'empereur appelle la pensée de la bataille, doit conduire forcément aux portes de Vienne. Le chapitre de Venise est un morceau à la manière des anciens. Du reste, le dernier chapitre qu'on lit semble toujours celui qui attache davantage. Aussi, sans doute, le lecteur me saura-t-il gré de lui avoir fait connaître tout ce qui m'en était demeuré entre les mains. J'étais fort souffrant et très fatigué, moins du travail que de disposition de santé. Notre récréation du soir a été Ulysse quittant Calypso et arrivant chez les Phéaciens. Lundi 23, sur la sensibilité, sur les Occidentaux et les Orientaux, leurs différences, etc. Le matin, dans sa chambre, l'empereur, à travers une foule d'objets, est venu à causer sentiments, sensations, sensibilités. Et citant à ce sujet l'un de nous, qui, observait-il, ne prononçait le nom de sa mère que les larmes aux yeux, il a dit: mais cela ne lui est-il pas particulier? Est-ce donc général? Êtes-vous de même ou suis-je dénaturé? Pour moi, j'aime assurément ma mère et de tout mon cœur. Il n'est rien que je ne fisse pour elle. Et cependant, si j'apprenais sa perte, je ne crois pas que je puisse exprimer ma douleur par une larme. Et je n'affirmerai pas qu'il en fût de même pour la perte d'un ami, celle de ma femme ou de mon fils. Cette différence est-elle dans la nature? Quel peut en être le motif? Ne serait-ce pas que la raison m'a accoutumé d'avance à la perte de ma mère qui est dans l'ordre naturel des choses, tandis que celle de ma femme et de mon fils est une surprise, une rigueur du sort contre laquelle je cherche à me débattre? Et puis, tout bonnement encore, est-ce peut-être le penchant naturel de l'égoïsme? J'appartiens à l'une et les autres m'appartiennent. Et il a multiplié les motifs avec sa profusion accoutumée, toujours neuve, toujours piquante. Mais je ne les retrouve pas. Il est sûr qu'il aimait tendrement sa femme et son fils. Les personnes qui ont servi dans son intérieur nous laissent connaître à présent combien il se livrait aux sentiments de famille et nous développent les nuances de caractère que nous étions loin dans le temps de lui soupçonner. Il serrait parfois son fils dans ses bras avec effusion et à l'étouffer. Mais le plus souvent encore, sa tendresse s'exprimait par des contrariétés et des niches. S'il le rencontrait dans les jardins, il le jetait par terre ou renversait ses joujoux. On le lui amenait tous les jours à déjeuner, et il manquait rarement de le barbouiller avec tout ce qui se trouvait à sa portée sur la table. Quant à sa femme, il n'était pas de jour où elle ne reparut ici dans ses conversations privées. Pour peu qu'elles se prolongeassent, elles finissaient tôt ou tard, d'une manière ou l'autre, par y être pour quelque chose et par en devenir tout l'objet. Il n'est point de circonstances, de plus petits détails relatifs à elle, qu'il ne m'ait répété 100 fois. Pénélope, après 10 ans d'absence, croit ne pouvoir s'assurer de la vérité qu'en faisant à Ulysse des questions auxquelles lui seul pouvait répondre. Eh bien, je crois que je ne serais pas embarrassé de présenter mes lettres de créance à Marie-Louise. Dans la conversation du soir, l'empereur, parlant des nations, disait qu'il ne connaissait que 2 peuples, les orientaux et les occidentaux. Les Anglais, les Français, les Italiens, etc., disait-il, ne composaient qu'une même famille, les Occidentaux. Ils avaient même loi, même mœurs, mêmes usages. Ils différaient entièrement des Orientaux, surtout dans les 2 grands rapports de leurs femmes et de leurs domestiques. Les Orientaux ont leurs esclaves, nos domestiques sont de conditions libres. Les Orientaux enferment leurs femmes, les nôtres partagent tous nos droits. Ils ont un sérail et jamais, dans aucun temps, la polygamie n'a été admise dans l'Occident. Il existe encore une foule d'autres oppositions, observait l'empereur. Il dit en avoir compté jusqu'à 80. Ce sont donc réellement, disait-il, des peuples différents. Et tout est calculé, continuait-il, chez les Orientaux, pour qu'ils puissent garder leurs femmes et s'assurer d'elles. Toute notre vie, au contraire, dans l'Occident, est calculée pour que nous ne puissions les garder, que nous soyons obligés de nous en rapporter à elles-mêmes. Tout homme, chez nous, sous peine d'idiotisme, doit avoir une occupation. Or, quand il vaquera à ses affaires ou remplira ses fonctions, qui surveillera pour lui? Il faut donc, chez nous, tout à fait compter sur l'honneur des femmes et y avoir aveugle confiance. Pour moi, disait-il gaiement, j'ai eu femmes et maîtresses, et jamais il ne m'est venu l'idée d'une surveillance particulière, parce que je pensais qu'il devait en être pour cela comme des poignards et du poison dans certaines situations, le tourment des précautions l'emporte encore sur le danger que l'on veut éviter. Il vaut mieux s'abandonner à sa destinée. Prononcer du reste quelle est la meilleure méthode de la nôtre ou de celle des Orientaux est une fort grande question. « Pas pour vous, sans doute, mesdames, » disait-il, en lançant un regard malin sur ces dames. « Mais ce qu'il y a de bien certain, c'est qu'on se tromperait fort si on supposait moins de jouissance aux Orientaux, si on les croyait moins heureux que nous, dans notre Occident. Chez eux, les maris y aiment beaucoup leurs femmes, les femmes y aiment beaucoup leurs maris. Ils ont tout autant de chances de bonheur que nous, quelques différences d'ailleurs qui peuvent se présenter. » Car tout est convention parmi les hommes, jusqu'à des sentiments qu'il semblerait ne devoir venir que de la nature. Et puis encore, ces femmes ont leurs droits chez elles, comme les nôtres chez nous. On ne pourrait pas les empêcher d'aller au bain public, pas plus qu'on empêcherait chez nous les femmes d'aller à l'église. Et les unes en abusent comme les autres. Vous voyez que l'espèce humaine, son imagination, ses sentiments, ses vertus, ses fautes, parcourt un cercle assez étroit. Tout cela se retrouve à bien peu de choses près, de même partout. Et il prétendait expliquer ou justifier la polygamie chez les Orientaux d'une manière fort ingénieuse. Elle n'avait jamais existé, disait-il, dans l'Occident. Les Grecs, les Romains, les Gaulois, les Germains, les Espagnols, les Bretons n'avaient jamais eu qu'une femme. En Orient, au contraire, la polygamie avait toujours existé. Les Juifs, les Assyriens, les Tartares, les Persans, les Turcomans avaient tous eu plusieurs femmes. D'où pouvait venir cette universelle et constante différence? N'aurait-elle donc tenu qu'au hasard et à la seule bizarrerie? Dépendait-elle des causes physiques dans les individus? Non. Les femmes, proportion gardée, étaient-elles moins nombreuses chez nous qu'en Asie? Non. Étaient-elles en Orient en plus grand nombre que les hommes? Non. Ceux-ci y étaient-ils plus gigantesques que nous, autrement constitués? Non. C'est que tout bonnement, le législateur ou la sagesse d'en haut qui en tient lieu aura été guidé par la force des choses dérivant des localités respectives. Tous les Occidentaux ont même forme, même couleur. Ils ne composent qu'un même peuple, une seule famille. Il a été possible, comme à l'instant de la création, de ne leur assigner qu'une compagne. Loi heureuse, admirable, bienfaisante, qui épure le cœur de l'homme, relève la condition de la femme et ménage à tous deux un torrent de jouissance morale. Les Orientaux, au contraire, diffèrent entre eux autant que le jour et la nuit, dans leur forme et dans leur couleur. Ils sont blancs, noirs, cuivrés, mélangés, etc. Il a fallu avant tout songer à leur conservation, à établir entre eux une fraternité consanguine, sous peine de les voir s'exterminer ou se persécuter, s'opprimer éternellement, ce qu'on n'a pu obtenir qu'en établissant la polygamie et en donnant la possibilité d'avoir à la fois une femme blanche, une femme noire, une mulâtre, une cuivrée. Dès lors, les différentes couleurs faisant partie d'une même famille se sont trouvées confondues dans les affections de leurs chefs et dans les opinions de chacune entre elles. Mahomet, ajoutait-il, semble avoir connu le secret et s'être déterminé d'après lui. Autrement, comme celui qui marche de si près sur les traces du christianisme et s'en éloigne si peu, n'aurait-il pas supprimé la polygamie? Dirait-on qu'il ne l'a conservée que parce que sa religion était toute sensuelle, mais alors il eût permis aux musulmans un nombre indéfini de femmes, tandis qu'il l'a restreint à 4 seulement, ce qui pourrait impliquer une blanche, une noire, une cuivrée, une mélangée. Et qu'on n'imagine pas du reste que cette faveur de la loi soit mise en pratique par toute la nation. Il ne se trouverait pas de femmes pour tous. Au vrai, les 11/12 de la population n'en ont qu'une, parce qu'ils ne sauraient en nourrir davantage. Mais la polygamie des chefs suffit pour atteindre le grand but. Car la confusion des races et des couleurs existant par la polygamie dans la haute classe, c'est assez pour établir l'union et la parfaite égalité entre tous. Convenons donc, concluait-il, que si la polygamie n'était pas le fait d'une combinaison politique, si elle ne dérivait que du hasard, celle-ci aurait en cette occasion produit autant que la sagesse consommée. L'empereur disait avoir eu sérieusement la pensée d'appliquer ce principe à nos colonies pour assortir le bien-être des nègres à la nécessité de les employer. Il avait même, disait-il, consulté à cet égard des théologiens pour savoir s'il n'y aurait pas moyen, vu les circonstances locales, d'employer nos croyances à cet usage, etc., etc. L'empereur a causé de la sorte jusqu'à minuit. Mardi 24. Sur la Hollande et le roi Louis, humeur, plainte contre les siens, haute politique, etc., lettre à son frère le roi Louis. L'empereur m'a fait appeler vers midi et demi dans son cabinet. Nous avons causé de la chaîne des auteurs qui fait descendre la lumière historique depuis les premiers temps jusqu'à nous et qui l'a porté à lire la partie du tableau premier de l'atlas historique qui en présente l'ensemble et le résumé. La conversation l'a fait tomber sur la variété de l'espèce humaine. Il a envoyé chercher Buffon pour éclairer cet objet et s'en est occupé assez longtemps. Après sa toilette, l'empereur a fait venir mon fils et nous avons travaillé 3 ou 4 heures au chapitre de la campagne d'Italie. Ce travail fini, la diversité des objets a conduit la conversation sur la Hollande et sur le roi Louis, sur lequel il a dit des choses très remarquables. Louis a de l'esprit, disait l'empereur, n'est point méchant, mais avec ses qualités, un homme peut faire bien des sottises et causer bien du mal. L'esprit de Louis est naturellement porté au travers et à la bizarrerie. Il a été gâté encore par la lecture de Jean-Jacques. Courant après une réputation de sensibilité et de bienfaisance, incapable par lui-même de grandes vues, susceptible tout au plus de détails locaux, Louis ne s'est montré qu'un roi préfet. Et dès son arrivée en Hollande, et n'imaginant rien de beau comme de faire dire qu'il n'était plus qu'un bon Hollandais, il s'y est livré tout à fait au parti anglais, a favorisé la contrebande et s'est mis en rapport avec nos ennemis. Il a fallu le surveiller aussitôt et menacer même de le combattre. réfugiant alors son manque de caractère dans un entêtement obstiné, et prenant un esclandre pour de la gloire, il s'est enfui du trône en déclamant contre moi, contre mon insatiable ambition, mon intolérable tyrannie, etc. Que me restait-il à faire? Fallait-il laisser la Hollande à la disposition de nos ennemis? Fallait-il nommer un nouveau roi? Mais devais-je attendre de lui plus que de mon frère? Tous ceux que je faisais n'agissaient-ils pas à peu près de même? Je réunis la Hollande, et toutefois cet acte eut le plus mauvais effet en Europe et n'a pas peu contribué à préparer nos malheurs. Louis avait été charmé de prendre Lucien pour modèle. Lucien en avait agi à peu près de même, et si plus tard il s'en est repenti, s'il s'est rallié, même noblement, cela a pu honorer son caractère, mais non raccommoder les affaires. À mon retour de l'île d'Elbe en 1815, Louis m'écrivit une longue lettre de Rome et m'envoya une ambassade. C'était son traité, disait-il, ses conditions pour revenir auprès de moi. Je répondis que je n'étais nullement dans le cas de faire des traités avec lui, que s'il revenait, il était mon frère, il serait bien reçu. Croirait-on qu'une des conditions était qu'il aurait la liberté de divorcer avec Hortense? Je maltraitais fort le négociateur pour avoir osé se charger d'une telle absurdité, avoir pu croire qu'une pareille chose fût négociable. Nos statuts de famille le défendaient formellement, faisais-je rappeler à Louis. La politique, la morale et l'opinion ne s'y opposaient pas moins encore, lui faisais-je dire, l'assurant de plus qu'à cause de tous ces titres réunis, si ses enfants venaient par lui à perdre leur état, je m'intéresserais bien plus à eux qu'à eux-mêmes, bien qu'il fût mon frère. Peut-être trouverait-on une atténuation au travers d'esprit de Louis dans le cruel état de sa santé, l'âge où elle s'est dérangée, les circonstances atroces qui l'ont causée et qui doivent avoir singulièrement influé sur son moral. Il faillit en mourir et y en a conservé depuis de cruelles infirmités. Il demeure à peu près perclus de tout un côté. Il est sûr du reste, continuait l'empereur, que j'ai été peu secondé des miens, et qu'ils ont bien fait du mal à moi et à la grande cause. On a souvent vanté la force de mon caractère, je n'ai été qu'une poule mouillée, surtout pour les miens, et ils le savaient bien. La première bourrade passée, leur persévérance, leur obstination l'emportaient toujours, et de guerre lasse, ils ont fait de moi ce qu'ils ont voulu. Je fais là de grandes fautes. Si au lieu de cela, chacun d'eux eût imprimé une impulsion commune aux diverses masses que je leur avais confiées, nous eussions marché jusqu'au pôle. Tout se fût abaissé devant nous, nous eussions changé la face du monde. L'Europe jouirait d'un système nouveau, nous serions bénis. Je n'ai pas eu le bonheur de Gengis Khan avec ses quatre fils qui ne connaissaient d'autre rivalité que celle de le bien servir. Moi, nommé un roi, il se croyait tout aussitôt par la grâce de Dieu, tant le mot est épidémique. Ce n'était plus un lieutenant sur lequel je devais me reposer, c'était un ennemi de plus dont je devais m'occuper. Ses efforts n'étaient pas de me seconder, mais bien de se rendre indépendant. Ils avaient tout aussitôt la manie de se croire adorés et préférés à moi. C'était moi désormais qui les gênais, qui les mettais en péril. Des légitimes n'auraient pas agi autrement. Ils ne se seraient pas cru plus ancrés. Pauvres gens, qui, quand j'ai eu succombé, ont pu se convaincre qu'ils n'avaient pas même l'honneur de voir leur destitution exigée ou mentionnée par l'ennemi. Et aujourd'hui encore, si on gêne leur personne, si on les tourmente, ce ne peut être de la part du victorieux que le besoin de faire peser le pouvoir ou la bassesse d'exercer la vengeance. Si les miens inspirent un grand intérêt au peuple, c'est qu'ils tiennent à moi, à la cause commune. Mais qu'aucun d'eux puisse causer un mouvement, assurément, on peut être bien tranquille. Et pourtant, malgré la philosophie de plusieurs d'entre eux, car n'en était-il pas qui, pour régner, s'était dit forcé à la façon de chambellan du faubourg Saint-Germain, leur chute a dû leur être bien sensible. Ils s'étaient fait promptement aux douceurs du poste. Ils ont tous été réellement rois. Tous, à l'abri de mes travaux, ont joui de la royauté. Moi seul n'en ai connu que le fardeau. Tout le temps, j'ai porté le monde sur mes épaules, et ce métier, après tout, ne laisse pas d'avoir sa fatigue, etc. On me dira peut-être pourquoi s'obstiner à créer des États, des royaumes. Mais les mœurs et la situation de l'Europe le commandaient ainsi. Chaque nouvelle réunion à la France accroissait les alarmes de tous. Elle faisait pousser des hauts cris et reculer la paix. Mais alors, continuera-t-on, pourquoi avoir la vanité de placer chacun des miens sur un trône? Car le vulgaire n'y aura vu que cela. Pourquoi ne pas s'arrêter plutôt sur de simples particuliers plus capables? À cela, je réponds qu'il n'en est pas des trônes héréditaires comme d'une simple préfecture. La capacité, les moyens sont aujourd'hui si communs dans la multitude qu'il faut bien se donner de garde d'éveiller l'idée du concours. Dans l'agitation où nous nous trouvions plongés, et avec nos mœurs modernes, il fallait bien plutôt songer à la stabilité et à la centralisation héréditaire. Autrement, que de combats, que de factions, que de malheurs. Dans l'harmonie que je méditais pour le repos et le bien-être universel, s'il fut un défaut dans ma personne et dans mon élévation, c'est d'avoir surgi tout à coup de la foule. Je sentais mon isolement. Aussi, je jetais de tous côtés des ancres de salut au fond de la mer. Et quels appuis plus naturels pour moi que mes proches? Pouvais-je mieux attendre de la part des étrangers? Et si les miens ont eu la folie de manquer à ces liens sacrés, la moralité des peuples, supérieure à leur aveuglement, remplissait une partie de mon objet. Avec eux, ils se croyaient plus en repos, plus en famille. En somme, de si grands actes n'étaient ni des caprices, ni des plaisanteries. Ils tenaient aux considérations de l'ordre le plus élevé. Ils se rattachaient au repos de la race humaine et à la possibilité d'améliorer sa condition. Que si, malgré les combinaisons faites de la meilleure foi, on s'est trouvé encore n'avoir rien fait qui vaille, c'est qu'il faut en revenir à une grande vérité, savoir qu'il est bien difficile de gouverner quand on veut le faire en conscience, etc., etc. Nota bene, la lettre suivante, d'une date fort antérieure, va jeter un grand jour sur les paroles de Napoléon, rapportées quelques pages plus haut, au sujet de la conduite de son frère en Hollande. Plus tard, le roi Louis a publié une espèce de compte-rendu de son administration à la nation hollandaise. C'est surtout à la suite de l'article ci-dessus et de la lettre qui l'accompagne qu'il devient curieux de lire ce document du roi Louis afin de pouvoir, en connaissance de cause, fixer ses idées sur le sujet. Château de Marac, le 3 avril 1808. Monsieur mon frère, l'auditeur D m'a remis, il y a 1 heure, votre dépêche du 22 mars. Je fais partir un courrier qui vous portera cette lettre en Hollande. L'usage que vous venez de faire du droit de grâce ne peut être que d'un très mauvais effet. Le droit de grâce est un des plus beaux et des plus nobles attributs de la souveraineté. Pour ne pas le discréditer, il ne faut l'exercer que dans le cas où la clémence royale ne peut déconsidérer l'œuvre de la justice, que dans le cas où la clémence royale doit laisser, après les actes qui émanent d'elle, l'idée de sentiments généreux. Il s'agit ici d'un rassemblement de bandits qui vont attaquer et égorger un parti de douaniers pour faire ensuite la contrebande. Ces gens sont condamnés à mort. Votre Majesté leur fait grâce. Elle fait grâce à des meurtriers, à des assassins, à des individus auxquels la société ne peut accorder aucune pitié. Si ces individus avaient été pris faisant la contrebande, si même en se défendant ils avaient tué des employés, alors vous auriez peut-être pu considérer la position de leur famille, leur position particulière, et donner à votre gouvernement une couleur de paternité en modifiant par une commutation de peine la rigueur des lois. C'est dans les condamnations pour contravention aux lois de la fiscalité, c'est plus particulièrement encore dans celles qui ont lieu pour les délits politiques que la clémence est bien placée. En ces matières, il est de principe que si c'est le souverain qui est attaqué, il y a de la grandeur dans le pardon. Au premier bruit d'un délit de ce genre, l'intérêt public se range du côté du coupable, et point de celui d'où doit partir la punition. Et si le prince fait la remise de la peine, le peuple le place au-dessus de l'offense et la clameur s'élève contre ceux qui l'ont offensé. Et s'il suit le système opposé, on le répute haineux et tyran. S'il fait grâce à des crimes horribles, on le répute faible ou mal intentionné. Ne croyez pas que le droit de faire grâce puisse être exercé impunément et que la société applaudisse toujours à l'usage qu'en peut faire le monarque. Elle le blâme lorsqu'il l'applique à des scélérats, à des meurtriers, parce que ce droit devient nuisible à la famille sociale. Vous avez trop souvent et en trop de circonstances usé du droit de grâce. La bonté de votre cœur ne doit point être écoutée lorsqu'elle doit nuire à vos peuples. Dans l'affaire des Juifs, j'aurais fait comme vous. Dans celle des contrebandiers de Middelbourg, je me serais bien gardé de faire grâce. Mille raisons devaient vous porter à laisser la justice faire une exécution exemplaire qui aurait eu l'excellent effet de prévenir beaucoup de crimes par la terreur qu'elle aurait inspirée. Des gens du roi sont égorgés au milieu de la nuit. Les assassins sont condamnés. Votre Majesté commue la peine de mort en quelques années de prison. Quel découragement n'en résultera-t-il pas parmi les gens qui font rentrer vos impôts? L'effet politique est très mauvais. Je m'explique. La Hollande était le canal par lequel, depuis plusieurs années, l'Angleterre introduisait sur le continent ses marchandises. Les marchands hollandais ont gagné à ce trafic des sommes immenses. Voilà pourquoi les Hollandais aiment la contrebande et les Anglais. Et voilà les raisons pour lesquelles ils n'aiment point la France, qui défend la contrebande et qui combat les Anglais. La grâce que vous avez accordée à ces contrebandiers assassins est une espèce d'hommage que vous rendez au goût des Hollandais pour la contrebande. Vous paraissez faire cause commune avec eux. Et contre qui? Contre moi. Les Hollandais vous aiment, vous avez de la simplicité dans les manières, de la douceur dans le caractère, vous les gouvernez selon eux. Si vous vous montriez fermement résolu à réprimer la contrebande, si vous les éclairiez sur leur position, vous useriez sagement de votre influence. Ils croiraient que le système prohibitif est bon puisque le roi en est le propagateur. Je ne vois pas quel parti pourrait tirer votre majesté d'un genre de popularité qu'elle acquerrait à mes dépens. Assurément, la Hollande n'est pas au temps de Ryswick et la France aux dernières années de Louis XIV. Et si la Hollande ne peut suivre un système politique indépendant de celui de la France, il faut qu'elle remplisse les conditions de l'alliance. Ce n'est point au jour, la journée, que doivent travailler les princes, mon frère. C'est sur l'avenir qu'il faut poser les yeux. Quel est aujourd'hui l'état de l'Europe? L'Angleterre d'un côté, elle possède par elle-même une domination à laquelle jusqu'à présent le monde entier a dû se soumettre. De l'autre, l'Empire français et les puissances continentales qui, avec toutes les forces de leur union, ne peuvent s'accommoder du genre de suprématie qu'exerce l'Angleterre. Ces puissances avaient aussi des colonies, un commerce maritime. Elles possèdent en étendue de côtes bien plus que l'Angleterre. Elles se sont désunies. L'Angleterre a combattu séparément leurs marines. Elle a triomphé sur toutes les mers. Toutes les marines ont été détruites. La Russie, la Suède, la France, l'Espagne, qui ont tant de moyens d'avoir des vaisseaux et des matelots, n'osent hasarder une escadre hors de leur rade. Ce n'est donc plus d'une confédération des puissances maritimes, confédération d'ailleurs qu'il serait impossible de faire subsister à cause des distances et des croisements d'intérêts, que l'Europe peut attendre sa libération maritime et un système de paix qui ne pourra s'établir que par la volonté de l'Angleterre. Cette paix, je la veux par tous les moyens conciliables avec la dignité et la puissance de la France. Je la veux au prix de tous les sacrifices que peut permettre l'honneur national. Chaque jour, je sens qu'elle devient plus nécessaire. Les princes du continent la désirent autant que moi. Je n'ai contre l'Angleterre ni prévention passionnée, ni haine invincible. Les Anglais ont suivi contre moi un système de répulsion. J'ai adopté le système continental, beaucoup moins, comme le supposent mes adversaires, par jalousie d'ambition, que pour amener le cabinet anglais à en finir avec nous. Que l'Angleterre soit riche et prospère, peu m'importe, pourvu que la France et ses alliés le soient comme elle. Le système continental n'a donc d'autre but que d'avancer l'époque où le droit public sera définitivement assis pour l'Empire français et pour l'Europe. Les souverains du Nord maintiennent sévèrement le régime prohibitif. Leur commerce y a singulièrement gagné. Les fabriques de la Prusse peuvent rivaliser avec les nôtres. Vous savez que la France et le littoral qui fait partie aujourd'hui de l'Empire, depuis le golfe du Lion jusqu'aux extrémités de l'Adriatique, sont absolument fermés aux produits de l'industrie étrangère. je vais prendre un parti dans les affaires d'Espagne qui aura pour résultat d'enlever le Portugal aux Anglais et de mettre au pouvoir de la politique française les côtes que l'Espagne a sur les deux mers. Le littoral entier de l'Europe sera fermé aux Anglais, à l'exception de celui de la Turquie. Mais comme les Turcs ne trafiquent point en Europe, je ne m'en inquiète pas. Voyez-vous, par cet aperçu, quelles seraient les funestes conséquences des facilités que la Hollande donnerait aux Anglais pour introduire leurs marchandises sur le continent? Elle leur procurerait l'occasion de lever sur nous-mêmes les subsides qu'ils offriraient ensuite à certaines puissances pour nous combattre. Votre Majesté est plus intéressée que moi à se garantir de l'astuce de la politique anglaise. Encore quelques années de patience et l'Angleterre voudra la paix autant que nous la voulons nous-mêmes. Considérez la position de vos États. Vous remarquerez que ce système vous est plus utile qu'à moi. La Hollande est une puissance maritime commerçante. Elle a des ports magnifiques, des flottes, des matelots, des chefs habiles et des colonies qui ne coûtent rien à la métropole. Ses habitants ont le génie du commerce, comme les Anglais. N'a-t-elle pas tout cela à défendre aujourd'hui? La paix ne peut-elle pas la remettre en possession de son ancien État? Sa situation peut être pénible pendant quelques années. N'est-elle pas préférable à faire du monarque hollandais un gouverneur pour l'Angleterre, de la Hollande et de ses colonies un fief de la Grande-Bretagne? L'encouragement que vous donneriez au commerce anglais vous conduirait à cela. Vous avez sous les yeux l'exemple de la Sicile et du Portugal. Laissez marcher le temps. Si vous avez besoin de vendre vos genièvres, les Anglais ont besoin de les acheter. Désignez les points où les smuggleurs anglais viendront les prendre, mais qu'ils les payent avec de l'argent et jamais avec des marchandises. Jamais, entendez-vous? Il faudra bien enfin que la paix se fasse. Vous signerez en son lieu un traité de commerce avec l'Angleterre. J'en signerai peut-être un aussi, mais les intérêts réciproques seront garantis. Si nous devons laisser exercer à l'Angleterre une sorte de suprématie sur les mers qu'elle aura achetée au prix de ses trésors et de son sang, une prépondérance qui tient à sa position géographique et à ses occupations territoriales dans les trois parties du monde, au moins nos pavillons pourront se montrer sur l'océan sans craindre l'insulte. Notre commerce maritime cessera d'être ruineux. C'est à empêcher l'Angleterre de se mêler des affaires du continent qu'il faut travailler aujourd'hui. Votre affaire de grâce m'a entraîné dans ces détails. Je m'y suis livré parce que j'ai craint que vos ministres hollandais n'aient fait entrer de fausses idées dans l'esprit de votre Majesté. Je désire que vous réfléchissiez à cette lettre, que vous fassiez des sujets qu'elle traite l'objet des délibérations de vos conseils, enfin que vos ministres impriment à l'administration le mouvement qui lui convient. Sous aucun prétexte, la France ne souffrira que la Hollande se sépare de la cause continentale. Quant à ces contrebandiers, puisque la faute a été commise, il n'y a plus à revenir sur le passé. Je vous conseille seulement de ne pas les laisser dans les prisons de Middlebourg. C'est trop près du lieu où le crime a été commis. Renvoyez-les dans le fond de la Hollande. Cette lettre n'étant à autre fin, etc. Signé Napoléon. À dîner, l'empereur a demandé à son piqueur comment était son cheval. Celui-ci a répondu qu'on le nourrissait fort bien, qu'il était fort gai et en fort bon état. « J'espère qu'il ne se plaint pas de moi, » dit l'empereur. « S'il fut jamais un chanoine au monde, c'est celui-là. » Et en effet, il y a 2 ou 3 mois que l'empereur n'est monté à cheval.